Bonne année à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, ce petit message avant pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Vous dire que, hélas, nous n'avons pas pu enregistrer beaucoup d'émissions ces derniers temps. Beaucoup de week-ends ont été annulés à cause des couvre-feux et des divers confinements. On avait des week-ends avec Vivien Féasson de prévu, des week-ends avec Fabien et avec donc les amis de la citadelle d'Antoine Foin qui étaient prévus. Tous ces week-ends ont été annulés. Donc, ça fait autant d'émissions que nous n'avons pas pu du tout enregistrer. Donc, je vous prie de nous excuser pour le manque de variété dans les podcasts que vous entendez en ce moment. Vous entendez un peu toujours les mêmes voix, car ces podcasts ont été enregistrés comme des podcasts de réserve au cours des week-ends qui ont précédé le confinement, en compagnie d'Adrien, de Valentin, d'Antoine, de Fabien, de Céline, de Natacha, de Flavie, donc de toutes les personnes que vous avez pu entendre depuis le début de cette saison. Hélas, ce sont les seuls podcasts que nous ayons, car c'est le seul week-end de cellule que nous avons pu faire cette année. Donc voilà. Bon, évidemment, tout le monde va très très bien, tout va très très bien. À part ça, donc la cellule se poursuit tout à fait normalement, c'est juste que nous n'avons pas pu enregistrer de podcast ces derniers temps, ce qui explique le fait que ce soit toujours un peu les mêmes invités au cours de cette saison quasi mensuelle. Voilà, je vous signale aussi que je serai sur les voies d'Altaride avec Julien Poire à la fin du mois pour vous présenter Trip to Sky. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de podcasts de la cellule en ce moment, vous pourrez m'entendre chez Julien. Merci à lui de m'avoir invité. Allez, voilà, je vous souhaite encore une bonne année. Une bonne santé, tout le monde va bien, c'est ça qui compte. Portez-vous bien, jouez bien et je vous laisse avec votre podcast quasi mensuel ce mois-ci consacré à un jeu de KF appelé Cimetière, un jeu très inspiré de Dark Souls. Allez, à bientôt tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment seul de la cellule aujourd'hui avec Adrien Cahuzac. Adrien, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Antoine Morgan tout à l'heure. Avec Valentin T. Très Hello. Heureux de vous retrouver pour ce podcast qui Bonjour. Sera consacré à... Tandis que mon crayon explose
T'as raté
en plein vol,
ton jet de...
de crayon.
Exactement.
À ce jeu qui s'appelle le Cimetière, un jeu de KF. KF qui, on le rappelle, est l'un... des théoriciens du jeu en performance avec
notamment,
Eugène Bidet,
ouais,
notamment.
Hein. Du jeu symboliste aussi.
On avait
aussi,
eu l'occasion d'en parler avec vous, enfin avec vous, chers auditeurs, à l'occasion de ce podcast sur le jeu en performance. Et aujourd'hui, c'est l'un de ces jeux qu'on va tester,
ouais,
un jeu qui s'appelle Cimetière.
Son nouveau gros projet, effectivement. Donc, c'est un jeu en développement. Donc là, c'était un playtest. Là, on a fait deux parties. Donc,
ah, c'est un playtest.
Voilà, c'est ça. Donc vraiment, c'est...
En général, le playtest, on le fait avec son auteur, Valentin. Pourquoi ? T'as une dérogation ?
Ouais. En fait, la dérogation que j'ai eue, c'est que
Montre-moi
je suis le... Ouais, je playtest le jeu avec Félix, donc KF, en campagne.
Très bien.
Et donc, je suis à 8 parties, là, avec KF. Et donc, j'ai compris comment le jeu fonctionne à force d'y jouer avec elle. Mmh. Et du coup, j'avais envie de faire découvrir le jeu, malgré son état playtest, dans le sens où je collabore pas mal avec KF pour développer le jeu. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup de design, de comment faire en sorte que le jeu fasse ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et donc, je suis aussi là pour chercher des retours que je transmettrai à KF éventuellement, soit à travers ce podcast.
Et donc, elle est OK pour le podcast.
Tout à fait, oui. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment l'état, bien sûr. Ça peut changer, ça peut être amené à évoluer. C'est aussi pour ça qu'on est là pour en discuter. Moi, ce qui se passe, c'est que je kiffe comme un cochon ma compagne avec KF. C'est vraiment super. Donc, j'avais envie aussi d'essayer de comprendre pourquoi je kiffe autant et qu'est-ce qui me plaît dans le jeu et d'en discuter un petit peu avec vous. Quoi.
Cimetière.
Alors, Cimetière est un nom de code, ça devrait changer. Mais pour l'instant, c'est ça le
patronyme.
Ça fait penser
à Stephen King d'entrée de jeu ou à ce type d'univers en tout cas un peu fantastique.
Et l'idée, c'est que c'est en fait une des nombreuses itérations de KF pour essayer d'adapter le jeu vidéo Dark Souls, donc qui est un jeu vidéo qui a trois volumes là pour l'instant.
Trois opus.
Donc moi, j'ai joué un tout petit peu à Dark Souls très récemment. Donc quand j'ai joué à Cimetière, donc à cette adaptation, je connaissais pas du tout Dark Souls. J'y ai joué depuis au jeu vidéo parce que ça m'a chauffé. Mm-hmm. Donc KF a fait beaucoup d'essais pour adapter Dark Souls, parce que KF adore ce jeu vidéo. Et il y a eu des itérations avec plein de sous-systèmes, adapter du Polaris pour faire du Dark Souls, adapter du la clé des nuages, qui est son précédent jeu.
Oui, ah oui, exactement, j'ai oublié de dire ça aussi,
fait, ouais.
La clé des nuages était effectivement...
Et donc, KF a accumulé une expertise de l'adaptation de Dark Souls en jeu de rôle, quoi, quasiment. C'est-à-dire qu'elle travaille cette question de l'adaptation de ce jeu vidéo depuis pas mal de temps.
Qu'est-ce qu'elle cherche à adapter exactement ? Est-ce qu'il cherche à adapter la dimension punitive du jeu ? Est-ce qu'il cherche à adapter la dimension ambiance de Dark Souls, extrêmement sombre ?
Ouais.
Parce que dans ce jeu, il y a beaucoup de choses, tu vois, et
on peut
vouloir chercher à émuler beaucoup de choses différentes.
Je pense que ça, c'est toute une réflexion aussi que KF amène autour de la notion même d'adaptation d'une œuvre. Et je trouve ça vraiment très intéressant que ce soit fait comme ça avec un matériau très identifié. Tu vois, c'est pas, je veux pas adapter un genre. Là, c'est vraiment une œuvre bien identifiée. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, il y a plusieurs angles pour adapter un objet, donc là, un jeu vidéo. Et à chaque fois, il va falloir faire des choix particuliers qui vont non seulement, alors dans une première étape, sélectionner certains éléments du jeu qu'on va effectivement pouvoir... appliquer dans le jeu, donc par exemple une esthétique, par exemple un certain gameplay, pas tous,
voilà,
donc on les choisit,
ouais.
Mais c'est insuffisant. En plus de ça, il faut réintroduire de la créativité, c'est-à-dire faut combler les vides, et donc il faut rajouter des choses qui sont pas du tout dans le matériau d'origine, qui permettent effectivement que ce soit un bon jeu de rôle et pas juste une pâle copie du jeu vidéo.
Très très bien.
Et donc voilà, dans Dark Souls, dans Cimetière, pardon. Ce qui a été adapté. Ouais,
juste un petit point, j'aurais passé la parole à Adrien et à Antoine pour qu'il nous parle de Dark Souls, parce que c'est on a des fans autour de la table. Toi, Adrien, t'es un joueur. Je voudrais quand même qu'on parle de Dark Souls, parce que on part comme une évidence que c'est connu.
Non, t'as raison, c'est bien vu.
Il faut quand même expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que Dark Souls, Adrien ?
Alors, j'ai pas les dates sous les yeux. Dark Souls, c'est un jeu qui a commencé sur Play par un opus qui s'appelle Demon's Souls, qui a été suivi ensuite de Dark Souls 1, 2, 3, qui sont plus ou moins dans le même univers. Je ne connais pas Demon's Souls, donc je ne peux pas vraiment en parler, mais il y a des ennemis qu'on retrouve, il y a des scènes qu'on retrouve, donc je pense qu'il y a un univers aussi qui se retrouve. Tout ça pour dire que Dark Souls, c'est un univers de fantasy gothique, très gothique, on va dire, avec des châteaux gigantesques, lugubres, avec des grottes sombres, poisseuses, maléfiques, avec des palaces lumineux sous le soleil et la lune, éthérées, des choses grandioses, grandiloquentes à tous les degrés possibles.
De passer la parole à Adrien sur ce sujet, parce qu'il va y faire rêver à chaque fois qu'il en parle.
Et avec toute une mythologie et tout un gameplay et toute une nouvelle façon de faire de la narration dans le jeu vidéo. Enfin, plus ou moins nouvelle, on pourrait
Antoine, n'hésite pas à prendre la parole aussi, parce que je sais que t'es...
Oui, t'inquiète, de toute façon, je reviendrai pour donner des contrastes. C'est des jeux qu'on peut aborder de plein de manières différentes.
Ouais.
Il y a plein de
choses qu'on peut en dire.
Ouais. Ça sera pas mal qu'on fasse du coup une liste des aspects différents
des
pour qu'on puisse après voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est un objectif d'adaptation ou pas dans ce jeu.
Exactement.
Donc dans Dark Souls, si on reste un tout petit peu sur l'univers, c'est un univers où un jour, le feu primordial est apparu et il a été porté par quatre divinités qui s'en sont servies pour créer la vie, etc.
Alors je vais faire mon chieur, mais le point important, c'est que avant ça, il y a les dragons.
Oui, il y avait un monde préétabli auparavant.
Le feu n'est pas la création du monde, c'est le passage d'un monde dominé par les dragons gris,
intemporel,
ou d'immortalité, à un monde où le feu et l'obscurité existent, où la vie et la mort existent, et où les dragons, qui étaient les divinités dominantes, ont été destitués par les quatre nouveaux dieux. En fait, il y a un côté un peu, moi je le vois vachement comme un côté guerre de l'Olympe, les titans qui renversent. Il y a
un truc quand même très pertinent aussi, je pense, par rapport à cette mythologie, c'est que j'ai l'impression qu'on va se friter contre ces entités-là, en fait, dans Dark Souls. C'est une mythologie qui est
mise en jeu.
C'est
une mythologie qui est là tout de suite, en fait. Elle est mythologique, mais elle est toujours actuelle, en fait. C'est-à-dire que c'est des divinités, donc elles sont toujours là, ou leurs reflets sont là. Mais en fait, ce qu'on va affronter, c'est pas les divinités, c'est leurs reliquats. Parce que c'est un univers dans lequel le temps est ravageur. C'est-à-dire qu'en fait, le temps passe tout le temps, on sait pas quand est-ce qu'on est, par rapport à quoi. On sait que des choses ont eu lieu, on ne sait pas il y a combien de temps. Il y en a certaines où, quand on tisse un peu les liens, on peut avoir une idée de ça c'est plus proche que ça qui est très loin, mais dans tous les cas tout est tellement loin que la plupart des gens ont oublié, il n'y a que des vestiges, que des traces très ténues de tout ça. Et donc dans Dark Souls, on joue un humain qui est frappé d'une malédiction qui le rend immortel mais de plus en plus mort-vivant, et auquel on annonce qu'il sera capable de réallumer la flamme. Et en gros, on a un monde qui est très cyclique, où le feu s'allume, un monde de gloire, de puissant se met en place avec des châteaux, des seigneurs, de la magie, des conflits de pouvoir, du commerce, tout ce qui peut aller avec, tout ce qui va avec la vie, on va dire, dans cet univers grandiloquent. Et puis le feu doucement s'éteint, et chaque Dark Souls, c'est l'occasion pour un héros de venir reprendre la flamme, la rallumer, et s'il ne le fait pas, que le monde tombe dans les ténèbres à nouveau.
C'est génial.
Et donc dans Dark Souls, on joue ça, d'un point de vue, on va dire, fiction. D'un point de vue gameplay, c'est un jeu d'action à la troisième personne.
Façon roguelike un peu, non?
Un petit peu, on peut y voir des similitudes avec le roguelike, dans le sens où on va mourir régulièrement, et avec certaines ressources qu'on peut accumuler en jouant bien, on peut progresser. Sauf que comparativement à un roguelike, on ne revient pas au début du jeu, on revient à certains checkpoints. Donc c'est du roguelike par niveau, on va dire.
Voilà.
Et les ressources ne font moins progresser que dans certains roguelikes. C'est vraiment player skill avant character skill.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est surprenant, parce qu'il y a un gros côté RPG avec création de personnages, lui attribuer des caractéristiques, dire je vais jouer un mage, un voleur, un guerrier, enfin voilà, des trucs de cet ordre-là. Mais par rapport à beaucoup de jeux, concrètement, l'échelle chiffrée entre le personnage débutant et le personnage tout à la fin de la partie, il est beaucoup plus fort, mais par rapport à beaucoup de jeux de ce genre-là, la différence est assez faible. Les points de vie vont être multipliés peut-être par 2, mais pas par 100 comme dans plein de jeux. Les dégâts que tu fais vont être multipliés peut-être par 3, mais enfin, les échelles ne sont pas du tout des échelles de puissance.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Il y a des gens qui font le jeu niveau 1.
Ce qui va compter vraiment, c'est le skill du player et pas le skill du caractère, c'est ce que disait du personnage. C'est ce que disait
Donc
Adrien.
On a une ambiance, on a un gameplay, on a la mythologie derrière, il y a l'aspect narration qui est aussi très important dans Dark Souls, qui est un jeu qui pour moi hérite un petit peu de Half-Life, dans le sens où la narration, il n'y a pas de pavé de texte qui apparaît, il n'y a pas de vidéo cinématique qui de temps en temps va raconter l'histoire. En fait, l'histoire on ne l'apprend que par les yeux du personnage, et comparativement à Half-Life, elle est plus dégradée
en plan séquence.
Dans Half-Life, on entend des PNJ discuter de qu'est-ce qui s'est passé, de l'armée qui arrive, etc. Dans Dark Souls, il y a très peu de discussions qui vont nous donner ces éléments-là. Ça va être la description d'un objet qu'on a dans l'inventaire. Ça va être un mot qu'on trouve à un moment donné par terre, écrit par un aventurier précédent au sol. Mais c'est des choses qui sont très ténues. Et en fait, pour accéder à la fiction, pour accéder à qu'est-ce qui a lieu, qui sont les personnages, comment les différents boss qui, a priori, on les tue, mais on n'a pas de lien avec eux, ils n'ont pas de lien entre eux. Pour comprendre ces liens-là, c'est un vrai jeu d'énigmes. Ce n'est pas donné au joueur. Il faut que le joueur vraiment prenne le temps et creuse pour aller le chercher et fasse un travail d'interprétation.
Excellent.
Il y a un côté narration environnementale, quoi, c'est ça?
Oui. Ouais.
Et c'est surtout un gameplay actif. Et il y a plein de gens qui passent complètement
à côté de l'histoire,
parce qu'ils n'ont pas envie ou ne font pas l'effort actif de prendre le temps de lire les descriptions d'objets, de faire des hypothèses sur les liens, tout ça. Et c'est là où le côté dont tu parlais du temps qui s'étiole est vachement important, parce que typiquement, tu vas avoir 12 descriptions d'objets. Les 12 vont commencer par « dans la légende d'un royaume ancien, machin », mais en fait, chaque objet va parler d'une époque différente. Et t'es là, alors celle-ci, c'était il y a 500 ans, l'autre, il y a 200 ans, l'autre, on n'en sait rien. Et il faut recoller les morceaux comme tu peux, si jamais ça t'intéresse.
Excellent.
Ou pas.
Et c'est un jeu qui arrive à faire une vraie mythologie riche. Enfin, moi, je pense, juste pour donner un exemple,
Adrien.
Il y a dans Dark Souls 1 un boss qui est un dragon sans écailles. Et il y a toute une histoire entre lui qui aurait trahi les premiers dragons parce qu'ils n'avaient pas d'écailles et donc ils se sentaient rejetés, et tout ça, rien ne le dit, c'est juste des petits mots à gauche, à droite, et puis dans le 3 on rencontre peut-être le fils de ce dragon, enfin il y a des choses comme ça qui...
Ce que je trouve remarquable dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'ai l'impression que l'accès à l'histoire dépend là aussi du player skill en un sens. C'est-à-dire que c'est aussi le joueur qui...
Oui, c'est vrai. En fait, le mot... J'allais dire que le
dans
mot
Metal Gear,
pour ça,
peu importe ton niveau... Pardon, excuse-moi, Antoine. Dans Metal Gear, peu importe le niveau de jeu du personnage, du joueur, pardon, il va de toute façon avoir accès à l'histoire via ses cinématiques qui vont de toute façon bien se sûr. Déclencher à des checkpoints bien précis, etc. Alors que là, c'est le joueur, en fait, qui va déterminer et sa capacité intellectuelle à faire les liens... aller chercher les informations qui vont finalement lui permettre d'accéder à l'histoire. Donc même l'histoire est de l'ordre de l'agentivité du joueur. Alors pour
en
éviter
fait,
le player skill.
Je me posais la question, pour ce truc-là, je me disais que le mot player skill me gênait, parce que j'allais plutôt dire player investment, tu vois, player le temps qui va passer. Mais t'as raison, en fait, c'est pas c'est le même skill que les skills de combat, mais c'est quand même un skill, cette enquête de faire des liens, et c'est pour ça qu'il y a une foisonnance des théories de joueurs sur Dark Souls, où il y a des interprétations qui se mélangent. Et là-dessus, ça fait encore le côté mythologie, au sens même mythologie grecque, où les interprétations des auteurs sont hyper nombreuses et où il y a plein de voies possibles. Excellent. Et même si les jeux suivants ont répondu à certaines questions parfois, il y a toujours des nouvelles questions qui émergeaient. Donc, c'est un maelstrom, pour le coup.
Très bien. Je t'invite, Antoine, à faire très attention quand tu touches le câble en bas. Ouais. Là, ça crée des parasites. Ouais. Voilà. Donc, faut éviter de toucher ça. Il faut toucher vraiment que le micro. Est-ce que la description de Dark Souls est complète pour vous deux, Antoine et Adrien, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voudriez rajouter avant de parler de Cimetière?
Il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait discuter de symbolique que le jeu a créé sur certains éléments, une certaine théâtralité, notamment de l'annonce de la mort du personnage, l'écran de mort du personnage qui est qui est devenu iconique. Mais ça, je pense que là, après, c'est des éléments qui sont trop liés au jeu et moins liés à ce qu'on peut l'interpréter en JDR.
Très bien. Ouais, je vois.
Voilà.
Après, je trouve qu'on a beaucoup parlé de la fiction, de l'ambiance et de tout cet aspect-là. Il y a d'autres aspects qui pourront peut-être être intéressants, mais qui sont peut-être moins évidents de base à adapter.
On les abordera peut-être.
Si, côté plus de gameplay, de level design, tout ça.
Il y a peut-être
aussi
un aspect level design, effectivement.
Qui ont beaucoup marqué le milieu aussi. On parle aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, de Souls-like. Ça a vraiment créé un genre. Alors parfois à copier de façon superficielle, évidemment, comme toutes les copies de jeux à succès. Mais il y a plein d'éléments de détail dans le gameplay qui ont établi des normes, en un sens, des voies possibles à suivre pour dire je fais un gameplay à la Souls-like. Et donc ça sera peut-être intéressant de détailler ça, mais plus tard.
Excellent. Valentin, on te redonne la parole. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Cimetière, au-delà du fait
que... Tout à fait, oui. Alors donc Cimetière, comme je disais, une des adaptations possibles, et le moteur de base que KF a choisi pour faire du Dark Souls dans Cimetière, c'est l'OSR. Donc on en a déjà parlé ici à la cellule.
Ouais.
Donc pour présenter extrêmement
rapidement, un peu ce que c'est que l'OSR.
Ou en tout cas dans le contexte de Cimetière,
ouais, voilà.
Ça a une certaine forme particulière. Donc KF a adapté un jeu de Eric Nieudan qui s'appelle Machato Monsters,
ouais.
Qui est un jeu qui offre un certain nombre d'options pour créer son personnage, tirer dans des tables aléatoires. Donc il y a un certain nombre d'options, c'est un OSR d'un certain type qui est somme toute assez classique. Il y a plein de bonnes petites idées, en fait. Je pense que c'est ça ce qui caractérise le mieux le jeu, c'est ok, on a concentré les bonnes idées de l'OSR dans ce système-là. Ce qui donc caractérise globalement l'OSR, et là on a un lien vraiment avec Dark Souls, c'est le player skill, c'est-à-dire que la manière dont on y joue, on a quelques caractéristiques, par exemple force, agilité, endurance, intelligence, sagesse,
oui.
Et on va faire très peu de jet dé avec ces caractéristiques. On va bien plus utiliser les descriptions du joueur, ce qui va nous dire, par exemple, pour tenter d'éviter un piège, l'inventivité qu'il va mobiliser, les bonnes idées sont vraiment un des gameplays principaux du jeu, quoi.
Ouais.
Donc voilà comment l'OSR est mobilisé dans Cimetière, avec une composante qui est très freeform, en particulier dans celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, le freeform, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser les mécaniques pour résoudre les actions,
ouais.
met d'autant plus l'emphase sur le player skill. C'est-à-dire que du coup, pour par exemple un combat, et ça c'est une particularité de Cimetière, KF suggère de ne pas jeter les dés ou que de temps en temps. C'est-à-dire qu'on va faire une description précise de comment est-ce qu'on essaye de, par exemple, esquiver un monstre en disant je fais deux pas de côté, puis j'essaie de le transpercer, voilà, c'est ça. Et si pour le meneur de jeu c'est logique, cohérent, eh bien on ne jette pas les dés et on continue.
Ça passe.
Mais si jamais c'était une très mauvaise idée, il n'y a pas de jet d'esquive où il y en a un si jamais, peut-être qu'il y a une ambiguïté. Mais par exemple, dans la partie qu'on a faite avec avec Adrien. Il me dit, donc il arrive dans une pièce, je lui dis, tu vois pas le plafond, elle est immense, elle se perd dans les ténèbres. Et il me disait, bah, je regarde à droite, à gauche, je regarde les fissures et tout. Et en fait, la mort venait d'en haut. Et donc, je ne lui ai pas fait de jet de dés.
Il a dit à droite, à gauche, non, il n'a pas regardé au-dessus.
Non, j'ai pas eu de jet de dés.
Pas eu de jet de dés, ouais.
Donc, il a dit à droite, à gauche, mais pas au-dessus. Quoi.
Exactement. Et donc, son personnage est mort comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de... Voilà, c'est un peu radical, hein, comme manière de faire.
Quand vous dites, je cherche à droite, à gauche, au-dessus, en bas, n'oubliez pas de préciser.
Bah, là, c'était pertinent, puisque la menace venait des ténèbres en haut, quoi.
En haut, d'accord, très bien.
C'est pour donner un exemple du type d'OSR qu'est Cimetière.
Très bien.
Donc ça, c'est un petit peu le contexte général du jeu. Alors, pour aller un tout petit peu plus dans les détails, donc, on va créer d'abord un personnage en tirant un certain nombre de choses aléatoirement. Donc, il y a les caractéristiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Donc là, je parle tout de suite d'un concept qui est très important, qui est le flow design, qui est un concept théorique proposé par KF, et qu'il mobilise dans Cimetière, et que j'ai mobilisé quand j'ai fait le playtest avec Adrien. Donc l'idée, c'est de dire que...
Rappelle-moi le flow...
Flow design, F-L-O-W-design. Donc l'idée, c'est de dire que, en fait, un des grands plaisirs qu'on a en jeu de rôle, c'est de pouvoir adapter un matériau. Et ça, c'est aussi une philosophie OSR, d'adapter, en fonction de nos envies, un matériel de jeu particulier. Donc l'idée de KF, c'est de dire, je vous propose un jeu avec des règles complètes, fonctionnelles, qui marchent bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez l'adapter, transformer des choses, je vous dis aussi comment faire. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, ce n'est pas se dédouaner sur les meneurs de jeu, ce n'est pas donner un jeu incomplet et dire aux gens, débrouillez-vous. C'est beaucoup plus donner un jeu complet, dire aussi, à ces endroits-là, moi j'ai fait des choix parce que ça me faisait kiffer de faire comme ça, mais je vous donne d'autres options. Et je vous explique un peu la philosophie du jeu pour que vous puissiez vous-même crafter votre propre cimetière. Donc par exemple, pour les caractéristiques, moi j'aime pas force, agilité, je trouve qu'il y a trop de caractéristiques, donc je me suis dit, moi j'aime bien l'ambiance un peu livre dont vous êtes le héros. Donc j'ai dit qu'il y avait habilité, vigueur et volonté. Donc c'est une adaptation, donc ça mange pas de pain, mais en tout cas, j'ai transformé le jeu ici, et en conscience, puisqu'on va bien expliquer quels sont les enjeux de ce genre de modification.
Oui, tu voudrais pas qu'on confonde le flow design avec la règle d'or, c'est ça que tu
es en train
de dire,
voilà.
En filigrane là.
Donc la règle d'or, c'est pas le plus important, c'est de s'amuser. Enfin, ça c'est la règle d'or, on pourrait dire. Le flow design, c'est donner les outils et une conscience de la manière dont on peut modifier le jeu, voilà. Pour qu'il s'adapte à ce,
j'ai envie
le
de dire,
plus, ce qu'on a envie. Quoi.
On dit, voici l'esprit des règles. Modifiez-les en ayant toujours à l'idée. Enfin, vous pouvez les modifier si vous pensez que vous respecterez mieux l'esprit en prenant.
Et aussi, il y a un vrai plaisir à la modification d'un jeu. C'est-à-dire que adapter le jeu à ses joueurs, c'est un plaisir en soi. Et donc, il y a un côté on peut prendre un livre, le lire et y jouer et prendre plaisir à y jouer, tel qu'il a été pensé, écrit, etc. On peut aussi prendre un livre, se dire ça pourrait être génial si. En fait, on changeait tel et tel point. Donc, typiquement, pour les fans de Dark Souls, des gens qui se disent « Ah, Cimetière, c'est génial !» Mais ça n'insiste pas assez sur ce côté-là. Moi, j'aimerais bien aller un peu plus dans cette... en fait, on est les ressources pour adapter le jeu à ce qu'on a envie, notre pratique. Donc, c'est aussi cette philosophie-là qu'il y a dans le jeu. Donc, finalement, les règles, il y en a beaucoup. Elles sont assez détaillées. Mais elles sont flexibles et s'adaptent aux envies des gens qui y jouent. Donc voilà le principe général en fait de Cimetière.
Un truc important qu'on n'a pas dit sur Cimetière, c'est que c'est un jeu qui se joue à deux.
Oui, un meneur, un joueur. Ouais.
Alors donc là, on a deux fans de Dark Souls qui ont joué à Cimetière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui a joué avec toi, puis ensuite l'autre a fait jouer à l'autre.
D'abord mené une partie pour Adrien.
Pour Adrien.
Et ensuite, on a un petit peu discuté avec Adrien. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que du coup, c'était le Cimetière de Adrien qui l'a fait jouer à Antoine.
Ouais.
Donc, on a deux d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pendant votre partie.
Allez,
et donc, ce sera le moment débriefé.
On pourra parler des fictions pour voir un petit peu les différences.
Je regarde simplement s'il y a des.
Je pose la question, mais je m'en doute, c'était la même préparation. C'était le même.
C'était la même préparation, mais le donjon n'était pas. Enfin, le donjon. On va dire la géographie, les lieux, les événements, ce n'est pas du tout les mêmes.
Ok.
Alors, avant de parler peut-être de la fiction, on pourra en parler après, mais juste quelques points peut-être de contexte. Donc, par rapport à Dark Souls, comment se positionne Cimetière ? Donc, l'idée dans Cimetière, c'est que on incarne un personnage qui est un mort-vivant et il a plusieurs caractéristiques. Donc, il est maudit, donc il revient à la vie. Et, je sais pas si on spoilera la manière dont on revient à la vie dans le cimetière, mais ça a une certaine saveur rôliste qui a été une adaptation là ici à ce niveau-là. Donc on est maudit, on revient à la vie, on a une quête pour le feu, c'est-à-dire qu'on veut retrouver la flamme primordiale. Et peut-être qu'on sait pas très bien parce qu'en fait on est amnésique en fait aussi. On ne sait pas très bien ce qu'on fait ici et nos souvenirs sont une ressource très importante dans le cimetière. Donc on peut commencer, donc moi je me rappelle de ma partie quand j'ai commencé cimetière avec KF, c'est bah, tu te retrouves à tel endroit, tu as tel souvenir très vague, la seule chose dont tu te rappelles c'est que tu veux retrouver la flamme primordiale et c'est tout. Et on commence à jouer comme ça, direct. Et c'est à peu près tout. Donc on tire quelques équipements, il y a des règles de magie qui sont plutôt sympas.
On peut commencer avec des souvenirs. Un des trucs qu'on peut venir sur les tables, c'est des souvenirs. Par exemple, tu te souviens que bah, tu as fait une action sacrilège dans le passé et que pour te repentir, tu pars chercher le feu. Donc tu sais pas du tout qu'est-ce que tu as fait, contre quel dieu, pourquoi, il y a combien de temps, à quelle occasion. Juste, tu sais que c'est ça qui te motive. Et donc du coup, moi, c'est typiquement ce que j'ai tiré avec mon personnage, et ça a motivé certains de mes comportements dans la partie à essayer de montrer du respect au lieu que je parcourais pour éviter que, si c'était la même divinité, je fâche à nouveau la mauvaise personne.
D'accord, ok.
Ouais, tout à fait. Et donc je termine avant qu'on arrive à la fiction là-dessus, c'est que dans le flow design, donc comme on en avait parlé, il y a moyen de modifier un peu le jeu en fonction des envies. Et bien justement, quand il y a des personnages, joueurs qui vont comme ça avoir un certain caractère, ils vont aborder la quête du feu d'une certaine manière, et bien du coup, on peut modifier le mythe. Enfin, il y a le mythe qui est donc l'explication mythologique. On peut en construire un sur mesure pour le personnage joueur. Et il y a donc des règles pour construire le mythe, pour construire des domaines. Donc on va parcourir différents domaines qui vont nous faire progresser vers la quête du feu. Et on peut construire de nouvelles règles. Donc par exemple, moi j'avais des règles particulières parce que j'avais fait un pacte avec une divinité. Et donc là, on a construit des règles sur pied pour être adapté à mon expérience de jeu. Et ça a créé des choses, je pourrais en parler, qui étaient vraiment très intenses pour le coup.
Très bien.
Voilà, donc là pour un peu un cadrage général du jeu.
Ok, excellent. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans les expériences de partie qui ont été faites ce week-end à la Barreau et du coup, pouvoir débriefer les parties et en même temps pouvoir parler du jeu via ces débriefs. Alors, vous voulez commencer par présenter la fiction? Est-ce qu'on commence d'abord par la partie Valentin-Adrien, puis Adrien-Antoine?
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, on va les présenter dans l'ordre où elles ont eu lieu, finalement.
Ouais, très bien. Donc,
Adrien.
Bah, comme c'était dit, personnage amnésique. Mon personnage avait un seul souvenir, donc avoir juré devant une prêtresse de fer de ne pas. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Bon, en gros que j'avais.
T'es vraiment amnésique.
Non, j'arrive même plus à lire ce que j'avais écrit. En gros que j'avais effectivement fait une action sacrilège auprès du culte du fer a priori, et que je partais en pèlerinage pour laver ce sacrilège. Et après, bah, j'avais quelques objets, pipe, tabac, une lance, des gants qui sont très forts, même sans forcer à l'intérieur, en gros qui accroissent ma force, et une dague, voilà, et c'est parti.
Ça, c'est des objets tirés sur des tables aléatoires.
Une cape et une veste en haillons de maille. Voilà. Mais, et donc tout ça, c'est, bah, c'est typiquement, comme il en parlait, c'est des gadgets pour moi ensuite me servir de... d'éléments pour « Ah, j'ai une cape, donc je peux peut-être me protéger contre tel truc, j'ai des haillons de maille, donc dans cette situation, je pourrais prendre plus de risques parce que j'ai une protection, j'ai une pipe et donc je peux me la jouer mode pépère, la pipe au bec, ouais. c'est logique que j'ai de quoi allumer du feu sur moi. » Voilà, et donc tout ça, ça fait mouliner le cerveau.
Il y a un inventaire à la Prévert et il y a un inventaire à la KF maintenant.
Ah,
c'est
oui.
Quelque chose qu'on retrouve dans ces jeux, cette idée de l'inventaire là, comme ça, qui sert en fait de couleur.
Oui, c'est une couleur très forte, ouais.
Ouais, mais ça, c'est dans tous les OSR en fait. Dans tous les OSR,
oui,
la gestion de l'inventaire est vachement importante parce que, vu que beaucoup d'OSR reposent sur le player skill, bah typiquement, dans les équipements standards de l'explorateur de donjons OSR, c'est un bâton de 6 pieds quoi.
Dans
qui
Autry,
sert
à
détecter les pièges. Ben moi, quand j'ai tiré une lance, je peux te dire, j'étais bien content parce que j'avais mon bâton de 6 pieds qui était inclus avec une arme.
C'est vraiment pas qu'une couleur, c'est des éléments, des outils concrets qu'on va
utiliser.
C'est aussi une couleur, mais
c'est à la fois une couleur, mais à la fois des outils qui vont te servir à te dire bah, comment je peux aborder des problèmes parce que j'ai certains leviers.
Exactement.
Et donc là-dessus, mon personnage reprend conscience, il est en train de marcher dans un canyon, il arrive devant un grand bâtiment qui barre le canyon de part en part, je franchis un portail, j'arrive devant une statue, je lui prête, enfin je fais révérence devant...
Prête
allégeance, mais en tout cas, je m'agenouille devant pour...
Tu lui donnes du respect.
Voilà, je marque mon respect, parce que ça va avec mon perso. Et puis ensuite, je rentre à l'intérieur, j'explore les lieux. je découvre une petite créature qui mange des livres à l'étage. Le réflexe standard Dark Souls, ça aurait été le buter. Parce que c'est une créature étrange, pas humaine, machin. Mais en même temps.
De base, tu butes tout ce qui bouge dans Dark Souls. Hein.
Oui, mais en même temps, dans Dark Souls, il y a des créatures qui ont l'air affreuses, qui des fois ont des lignes de dialogue en fait. Et donc elles sont pas agressives par défaut. Et donc ça, ben, méthode OSR, je m'approche doucement, je lui offre un livre, vu qu'elle mange du papier, pour essayer de
sympathiser,
voir s'il y a du dialogue à faire. Et bon, vu qu'elle parle pas, qu'elle est pas agressive, bon, ben, je la laisse là. Mais je la laisse là aussi en me disant, plus tard, et c'est rigolo parce que du coup je l'ai utilisé plus tard, ça peut me servir à désamorcer un piège.
Ouais, bien sûr. Genre.
Ouais. Et donc ensuite j'explore le reste du bâtiment, il y a une des ailes qui s'est effondrée, et dans une des ailes il y a un labo de magie et d'alchimie où dans un réceptacle il y a un liquide doré présent, donc bon, bah, j'en prélève, j'en prends. Avec cette question de qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je le bois, est-ce que ça, parce que c'est lumineux, ça a l'air positif, mais bon. Et en lisant les bouquins, j'apprends que a priori les mages ici essayaient d'extraire l'essence vitale des créatures ou des humains parce qu'ils avaient projet de ramener à la vie la déesse du feu, là je sais plus comment elle s'appelle.
La reine phénix, je crois.
La reine phénix, c'est ça. Et donc ils voulaient réextraire cette essence qu'elle aurait donnée aux créatures vivantes en créant la vie, et que du coup en réunissant, on pourrait peut-être la faire revenir à la vie. Bon. Donc ça, c'est ce que veut faire le culte, a priori. Puis ensuite, j'explore les sous-sols du bâtiment.
T'as pas bu le liquide doré, du
non,
coup
Non, pas tout non. de suite. Plus tard.
Plus tard. You die.
Puis ensuite, je pars explorer un souterrain. Le souterrain, c'est plus ambiance catacombe magie noire. Des tas d'ossements, à nouveau d'une zone bibliothèque, table de lecture. Et une sorte de d'annexes avec des cages où plein d'animaux sont maintenus, enfin étaient maintenus prisonniers, et vu les ossements et les restes, en gros c'est un endroit où ils semblaient faire de la chirurgie ou de la magie, ou en tout cas ils commençaient à mêler homme et animal, et vu que je sais plus où est-ce que j'avais lu ou vu ça, mais qu'en gros la reine phénix, ouais, ça, vu le nom reine phénix, j'associe ça qu'il y avait peut-être un aspect oiseau derrière, et vu qu'il y avait beaucoup de créatures qui avaient des plumes et autres, je me suis dit, ils sont en train d'essayer de créer, enfin ils ont essayé de créer son corps, ouais. Ils ont essayé de créer son âme, et ils voulaient fusionner quelque chose comme ça, quoi. Là-dessus j'affronte une bestiole, une sorte de zombie à moitié homme oiseau qui est plein d'un liquide noirâtre, une sorte d'acide qui me brûle, je le flingue. Et puis après, je rentre dans une pièce où il y a une fissure qui fend la pièce, un portail qui a l'air magique, qui est inactivé aujourd'hui, un hôtel. Et quand je rentre, je fouille un peu, un truc me tombe sur la tronche, je meurs. Et dans le jeu, on a une ressource qui s'appelle l'humanité, qui permet de revenir à la vie tant qu'on en a, et qu'elle s'épuise doucement au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et donc je reviens à la vie, on laisse ça sous parenthèse sur qu'est-ce qui change, etc. Okay. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je meurs, je gagne un nouveau souvenir. J'ai un flashback de ce qui s'est passé ici, et j'en apprends un peu plus, ça confirme quelque chose que je savais, et je sais où trouver un livre qui donne un rituel où a priori on pouvait solliciter l'âme du Seigneur du Feu, grosso modo.
D'accord,
et donc fort de tout ça, je retourne dans la pièce où je suis mort et je me rends compte que beaucoup de temps est passé en fait entre mes deux vies.
Ah, intéressant ça.
Et ouais, que là, ouais, il y a des choses qui ont changé, il y a de la poussière qui s'est redéposée et on est à nouveau dans ce flou de l'intemporalité. On ne sait pas où on en est, qu'est-ce qui a changé. J'y vais de façon très très bourrine en me disant bah, c'est bon, c'est l'endroit que je viens d'explorer, donc je sais où trouver quoi. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'effectivement des choses ont changé. Là, tout d'un coup, la parano se réenclenche. On doit jouer prudent à nouveau parce que peut-être que des gens ont remis des pièges, peut-être qu'il y a des nouvelles créatures qui sont venues entre temps. On n'est pas garanti que ce soit sécurisé une fois qu'on a fait ça, quoi.
Excellent. Pourquoi vous riez tous les deux là ?
Moi, je soupire, Valentin rigole.
Bah parce que le jeu te lâche pas en fait. Tu vois, c'est pas parce que t'es passé une fois que et du ça, coup c'est bon, c'est débunké, tu vois.
Et ça en plus, ça c'est un des éléments Dark Souls. Dark Souls, quand tu meurs, tu réapparais à ton point de sauvegarde présent qui sont des feux où tu t'es reposé. Mais tous les ennemis que t'as affrontés réapparaissent partout. Alors dans le jeu vidéo, c'est tout revient comme avant. Là, c'est pas strictement la même chose, mais on comprend bien que comme dans le jeu vidéo, les dangers sont à nouveau là quand tu meurs. Et tu réapparais, ta malédiction a frappé, mais du temps est passé.
D'accord, très bien.
Et donc, suite à ça, je rentre dans la pièce où j'étais mort. Je récupère les équipements qui traînaient au sol que j'avais pu laisser, donc notamment ces fioles de lumineuses. Et là, donc, un des éléments que j'avais détecté, c'est que j'avais entendu une sorte de créature homme-oiseau dans le hall du bâtiment qui semblait hanter les lieux, qui n'était pas là avant. J'ai pas compris que c'était ça qui m'avait tué la première fois. Mais en fait, c'était ça qui m'avait tué la première fois.
D'accord.
Ouais. Et donc, ce truc-là qui est là, qui a l'air agressif, machin, je me réfugie, moi, dans la salle. J'ai ce livre, j'ai un rituel, j'ai de la lumière, enfin, ce liquide lumineux. Je me dis, bon, bah, je vais faire le rituel qui est dedans pour quelque chose, quoi, je sais pas trop. Donc, je fais le rituel, mais je m'y prends un peu tard. La bestiole débarque. Et là, j'ai réussi mon rituel. Le portail s'est activé. Et ça mène une sorte de dimension de ténèbres. Et donc, moi, je suis partagé entre c'est là d'où vient la bestiole. Et vu que les lieux semblaient protégés contre. Enfin, tout était barricadé pour que ce qui était à l'intérieur ne s'évade pas.
Ouais.
Donc, soit la bestiole vient de là, et en fait, il faudrait que je l'en réenferme dedans, un truc comme ça. Ouais. Soit, ben, j'y vais, quoi, je sais pas. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai bu la fiole et que je suis rentré dedans.
D'accord, ok.
Et fin du jeu à ce moment-là pour moi.
Ok. On ne sait pas ce qui se passe derrière.
Si, on le sait. J'arrive, je me réveille sur une côte avec des grandes montagnes et au loin une tour, un château qui dépasse hors des montagnes et au sommet une lueur. Et donc j'imagine que c'est là où le feu existe, le feu que je dois ranimer.
D'accord, ok.
Donc en gros, c'est fin d'une zone, d'un scénar.
Là, tu as dépassé un domaine.
Voilà, c'est ça.
Tu as dépassé un domaine, ouais.
Un donjon.
Exactement.
Ça peut être un donjon, ça peut être d'autres trucs, mais ouais.
Mais c'est un domaine dans le jeu de KF.
Ouais, ça s'appelle des domaines, c'est juste une unité géographique.
Très bien.
Mais ça peut être une très longue plage, ça peut être un domaine par exemple.
Et donc maintenant, on peut laisser Antoine raconter, et du coup, je pense qu'on verra avec les nuances et les similitudes qu'est-ce que c'est qui sont les invariants et qu'est-ce que c'est qui ne sont pas les invariants
du scénario. Métaphysique du jeu.
Non, du scénario.
Du scénario, pardon, excuse-moi, oui. De la partie.
Ou du... Alors, je vais commencer un peu par le...
On t'entend pas. Alors, pourquoi Non, je pense que t'as...
Ça y est, je les rebats.
Ouais, exactement. Parce qu'en fait, certains d'entre vous les prennent comme ça, et je pense qu'à force, ça tire
le,
un peu
le
sur les câbles.
Le poids du câble fait pas le... Non, au contraire
Bah, ça peut, mais quand le câble est mal positionné, ça veut dire que le câble va lâcher hein, dans peu de temps, mais c'est normal pour du XLR, okay. Ça fait toujours...
C'est la cellule.
Alors, commençons donc par le personnage, qui a aussi été tiré au hasard à plein de niveaux. J'avais sur moi un casque cabossé, des haillons de maille également. J'avais un souvenir qui était, moi, plus des histoires au coin du feu, des souvenirs de légendes, de trucs qui m'avaient été racontés, enfant ou pas, sur l'apparition du premier feu à cimetière. Il y avait cette idée dans les légendes dont je me souvenais que le feu en lui-même avait, à son apparition... planter les graines de sa propre fin, qu'il y avait que la nature même du feu supposait sa propre fin en lui-même, un truc un peu symbolique comme ça, mais...
D'accord.
Mais voilà. J'avais un charme pour l'après-vie, qui est toujours tiède. Je ne sais pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert, mais j'avais un charme pour l'après-vie. Comme ça que ça s'appelle.
Tous ces objets, ils existent dans la base de données de KF.
Bien sûr, oui, c'est les tables aléatoires.
Tout ça.
Une table 1 million et tu jettes dessus.
Il y en a beaucoup ou pas? Non, mais
non,
quand
non,
même,
12. En fait, c'est un système de Macchiato Monster, les tables aléatoires comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plusieurs tables. Tu as des tables pour les souvenirs, tu as des tables pour les armes de mêlée, tu as des tables pour des objets divers. Je crois que tu as 7 ou 8 tables différentes.
Il y a 8 tables, je crois.
Ouais, tu as des tables pour des objets magiques. Et en fait, tu as un certain nombre de dés. Tu as 1 des 4, 1 des 6, 1 des 8, 1 des 10, 1 des 12. Et pour 1 dé, tu jettes ce dé pour la table que tu veux. Donc par exemple, tu jetais un des 4 pour la table des armes de mêlée, et tu auras une arme, donc entre 1 et 4, ouais, donc qui sont des armes nulles. Si jamais avec ton D12, tu fais 12, qui est le maximum sur une des tables, tu as un objet ultra badass. Donc par exemple, moi j'avais fait 12 sur la table des armes de mêlée, ce qui a fait que j'avais une épée flamboyante, un truc comme ça, ou je sais plus exactement, mais c'était l'idée. Et donc ça a vraiment ancré mon personnage. Et la mythologie de mon personnage a été déterminée par le résultat de ce dé, par exemple.
Excellent. Ouais.
Voilà, pour te donner un exemple.
Ouais, je vois bien.
Et donc voilà, c'est là-dedans que tu as tiré tes.
En fait, tu choisis les dés. Voilà.
Donc tu peux prendre, par exemple, tu peux faire que des tirages sur la table des magies, par exemple. Tu dis, je prends tous mes dés, je jette tout en magie.
En magie.
Et ouais. En fait, je vais jouer un mage.
D'accord, ok, très bien. Ouais.
Et en plus de ça, on a, en dehors même des tables, on a des choix supplémentaires, soit entre certains sorts, soit entre une habilité spéciale, soit...
Tu fais bien de préciser parce que j'avais compris que c'était tu choisissais le dé.
Je sais plus c'est quoi la dernière option, okay. Un bonus, je sais plus quoi. Et moi j'avais choisi comme habilité spéciale d'avoir des griffes rétractiles, quelque chose de naturel dans mes os, assez solide et avec un peu de distance pour... notamment, mais pas que, pour pouvoir toujours avoir un truc pour me battre et me défendre, même si j'étais désarmé ou voilà.
Okay,
et je l'avais pas anticipé du tout, mais... Mais alors, remarque, c'est peut-être spoiler un peu les natures, la nature de la mort. Bon, bref, ça m'a été utile.
En tout cas. Je pense que c'est bien de laisser du mystère dans le podcast, parce que le jeu est un jeu à mystère, à secret, en fait.
Oui, aussi, un peu. Bah, y a aussi un côté enquête mythologique, un côté avec toutes les sources d'inspiration qu'on a citées. Ok, et bah, alors pour ma part, pour le reste de la fiction, c'est au niveau des faits assez similaires sur pas mal de points. J'ai exploré globalement le même lieu avec l'arrivée initiale, la fontaine, la statue, que moi, pour le coup, j'ai pas du tout prêté mes respects devant. Je l'ai contourné soigneusement en la gardant en la surveillant d'un coin de l'œil parce que j'aimais pas du tout ça.
Attention, à nouveau, on va te perdre. Attends, sinon, prends le micro d'Adrien pour le truc, parce que là, on est en train de te perdre à nouveau.
Hop. Ouais. Donc là, moi, j'ai plus contourné la statue à l'entrée en prenant mon temps. Il y avait, moi, c'est beaucoup les courants d'air qui m'ont pas mal occupé ma paranoïa et mes paniques. L'entrée du bâtiment immense était vraiment, fallait presque que je rampe au sol pour que je m'agrippe pour réussir à rentrer tellement le courant d'air était fort. Et après, j'ai exploré un peu les lieux avec plusieurs salles très verticales aussi où je regardais souvent au plafond et j'ai passé ma vie à longer les murs, à essayer de s'il y avait des fissures ou des trous possibles pour des pièges ou des dangers, à les contourner à l'endroit où c'était le plus fin autant que possible, donc à vraiment être dans la prudence autant que je pouvais. J'ai pas du tout autant oui, ça c'est la première différence qui marque dans ce que tu dis, rien eu ce côté prêter mes respects à une statue ou m'intéresser à des rituels ou au lore, etc. Tu m'as dit à la fin de la partie à un moment donné, mais en fait t'as pas lu un seul livre de la bibliothèque, et j'ai fait ah oui parce que j'ai juste pas pensé, enfin je sais pas s'il y avait un côté s'il y a pas un livre qui clignote en mode jeu vidéo ou qu'on prenne attention, je vais pas le lire ou quoi. Je sais même pas si je me suis dit que mon perso savait pas lire ou quoi, mais bref, j'étais pas dans cette optique-là. J'ai exploré un peu les lieux. Après, il faut dire tout de suite pour commencer à préciser les choses qu'on a joué assez tard. On était fatigués tous les deux à ce moment-là. Et de base, je sais que je suis quelqu'un qui est pas du tout visuel dans ma mémoire et ma façon de fonctionner. Et en plus que l'OSR, pour moi, c'est un type de jeu avec lequel j'ai du mal à la base. Et où c'était un peu, pour moi, une énième tentative de voir si... notamment en solo, avec un seul joueur, ça allait fonctionner ou pas, mais ça se confirme que l'OSR, c'est très fatigant pour moi et je pense pas un mode de jeu qui me convient, donc voilà, ce sera un disclaimer que je répéterai plusieurs fois. Mais néanmoins, j'ai exploré plusieurs zones des lieux, j'ai récupéré après plein d'essais en cassant des trucs dans la salle un peu alchimique, aussi une fiole avec ce liquide lumineux pour pouvoir explorer une zone plus sombre. Je suis allé dans les catacombes, dans les souterrains. Également, et j'ai eu ma première mort alors que j'observais du coin de l'œil le contenu d'un sarcophage et qu'une main griffue a surgi et comme je suis mort instantanément, je n'ai même pas vraiment su comment j'étais mort. Et du coup, à partir de là, ça lance quand même pas mal de choses, le fait d'avoir une mort à ce moment-là. La partie avait été assez lente jusque-là, en grande partie parce que je joue très lentement, je joue super prudent dans ce genre de truc. Mais il y avait un peu ce que tu disais quand même, ce côté « Oh, ça va, je suis mort une fois, je suis revenu, je connais les lieux, je peux accélérer un peu. » Il y a une confiance à ce moment-là qui est prise et qui effectivement est désamorcée un peu par le fait qu'on se rend compte que des choses ont changé. Mais c'est vrai que ça aide un peu à amener du rythme. Et encore plus pour un one-shot, on se dit que l'humanité, qui est factuellement, c'est un nombre de vies limitées, c'est juste aléatoire. Un nombre de vies limitées, on se dit quand même qu'on peut prendre des risques et que mourir, c'est pas si grave, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, à ce moment-là. Mais donc j'ai continué un petit peu à explorer ces souterrains-là. J'ai exploré dans la zone centrale de la bibliothèque un autre passage avec, pareil, les endroits avec les animaux enfermés, une cuisine abandonnée, tout ça. J'ai essayé de me venger du truc du sarcophage qui m'avait fait la peau. Ça s'est mal passé aussi. Deuxième fois, et pas très longtemps après, on a arrêté la partie avant de vraiment finir ou d'aller à une conclusion comme vous, parce qu'on avait pas mal fait les tours du lieu, qu'on était fatigué, qu'on avait une vue d'ensemble du truc. Voilà. Et comme c'était un peu laborieux pour moi aussi.
J'ai une question à poser à Adrien, si tu peux lui reposer le micro. C'est quand tu as tué Antoine, toi, tu avais un modus operandi très clair sur comment il fallait faire dans cette pièce. Parce qu'il y a un côté très arbitraire dans ce que
oui,
nous raconte.
Oui, il y a
Antoine.
Un côté très arbitraire. En fait, c'est le même arbitraire de Valentin. C'est qu'en gros, moi, je savais qu'est-ce qu'il y avait dans le sarcophage. Et Antoine s'est rapproché du sarcophage en mode très naïf. Je vais voir ce qu'il y a dans le sarcophage, en fait. Et la manière dont il le formulait, c'était pas je jette un caillou dedans, je mets mon épée pour faire reflet, voir ce qu'il y a à l'intérieur. En gros, il a marqué aucune forme de prudence dans, dans ce qu'il m'a dit. Et alors, je l'ai pas tué d'un coup. Il s'est pris une attaque qui réussissait. Et vu qu'il avait déjà pris des dégâts, les dégâts que je lui ai fait l'ont tué. Mais bon, j'ai jeté un des 6, j'ai fait 6, il lui restait 5 points de vie. Bon, bah voilà, il est mort.
Pas de bol. Okay.
Pas de détails en plus, t'es mort, mec.
Ok.
Ouais, voilà.
Très très bien. Bon, là, t'es satisfait de la description de la fiction, Antoine, c'est bon ou pas ? Est-ce que ça marche, ça ?
Oui, oui, bah, je retourne te dire.
Ça marche bien, d'ailleurs. Ça marche, ouais. Bon, tu sais, les XLR, c'est mystérieux. Hein. Tu peux pas... C'est des faux contacts, en fait. Donc,
XLR,
pour l'instant, ça marche bien. Donc ça va, c'est bon, fini, fin de
oui,
la
oui,
description.
Comme,
de la
comme ça ressemblait pas mal dans
alors,
la base et que.
On va pouvoir parler un petit peu de votre ressenti. Antoine, toi, t'as pu dire donc que de toute façon l'OSR, c'était pas quelque chose qui.
Bah ça se confirme. Hein. J'ai vraiment du mal à m'investir beaucoup. Là, j'ai vraiment essayé de tenir longtemps, de faire des efforts et tout. Et heureusement qu'il y a eu, je disais un peu cette relance de la de la mort qui a amené plus de choses au final qu'elle n'amenait de frustration. Et c'est vrai que le dans les 20 minutes avant cette première mort, j'avais commencé à me poser la question de proposer d'arrêter la partie éventuellement, et ça a relancé beaucoup de choses ensuite. Mais c'est vrai qu'au final, donc voilà. Mais je pense aussi un peu comme je l'avais dit aussi dans le podcast sur Explorateur des Bruines, il y a beaucoup de choses dans Cimetière qui m'ont intéressé, dont je vais essayer de parler. Mais à partir du moment où le gameplay central c'est l'OSR, c'est un choix qui s'assume. Mais s'il y a des gens à qui l'OSR convient complètement, et moi je pourrais passer un temps fou à critiquer ce qui ne convient pas là-dedans, mais ça n'a pas forcément d'intérêt que je le fasse. Je le ferai un peu si c'est intéressant de comparer avec Dark Souls tout ça, mais je vais pas non plus épiloguer sur pourquoi ça me...
Ouais, ok. Bon.
Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi Valentin surkiffe, quoi. Vraiment.
Ok, Adrien.
Alors moi, mon point de vue là-dessus est un peu ambivalent. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'OSR pour le côté player skill. Mais pour moi, un des éléments qui fait que l'OSR tient, en fait, là où j'aime jouer à de l'OSR, c'est quand les parties sont préparées et que j'arrive à comprendre ou à démêler quels étaient les secrets du lieu à travers les éléments qui me sont donnés. Là, dans le jeu tel que c'est précisé, il n'y a pas de carte du donjon. Il y a beaucoup d'éléments qui sont suggérés, qui sont les invariants sont très faibles en fait dans les préparations, et c'est au MJ entre guillemets de prendre sur lui de créer un lieu derrière ça, de créer des éléments, des objets importants
en procédural, si j'ose dire.
Ouais, voilà, c'est ça. On a la couleur du lieu avec le nom de 2-3 créatures, avec quel type de pièce il y a présent. Mais alors après c'est peut-être aussi comme ça que tu me l'as précisé, Valentin. Mais Valentin m'a dit tu peux enlever des choses, rajouter ta sauce. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Mais en fait moi en tant que MJ, ça m'a créé la frustration de devoir faire un gros boulot en fait avant la partie puis pendant la partie en fait pour réfléchir à ce que je lui présentais, que ce soit cohérent, lui donner des récompenses à chaque fois. En discutant avant, je t'avais dit ah ouais moi je vais essayer de mettre plus d'objets pour qu'il ait plus d'éléments de pouvoir, etc. Et en fait, sauf que sur le coup, j'avais à penser à tellement de choses avec les descriptions, l'organisation géographique des lieux. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Qu'en fait, j'ai pas fait ça, ce que j'avais dit que je ferais. Et donc, du coup, il s'est retrouvé dans la même posture que moi j'avais. C'est-à-dire qu'il avait peu d'éléments sur lesquels il pensait pouvoir agir. Il avait exploré quasiment toutes les salles. Il manquait une salle, qui était la salle où il y avait la fin, en fait. Mais du coup, très vite, le joueur se sent sans moyen d'agir. Et je pense que tu vois, sur cette préparation-là, si j'avais une carte plus dodue, avec plus d'éléments symboliques, machin, sans forcément que ce soit pour débloquer la porte finale, il faut mettre ça avec ça, et puis combiner, mettre tel code, etc. Mais en tout cas, que le travail était beaucoup plus pré-mâché, moi je me serais plus éclaté, le joueur se serait plus éclaté. Parce qu'en gros, au final, moi j'ai l'impression que ce jeu a les forces de l'OSR, les défauts de l'OSR, avec une partie de ses forces seulement, quoi. Là, pour moi, la grosse force de l'ESR, c'est de pouvoir arriver et on joue tout de suite, en fait. Et on joue tout de suite parce que si on a du travail, on l'a travaillé à l'avance. Mais le moment de la partie, on peut se concentrer chacun sur ce qu'on a à faire, quoi. Et moi, là-dessus, le jeu, il a un pied qui est dedans et un pied qui est à côté, quoi, qui m'a laissé, moi, un peu dans le vide. Et ce ressenti que j'avais en tant que MJ dans la partie, je l'ai aussi eu un peu en tant que joueur. C'est que quand tu me dis, j'ai interprété, j'ai ajusté, j'ai rajouté ça, etc. En fait, le truc, c'est que à quel moment, tu vois, moi en tant que joueur, j'aime bien arriver à une vérité, tu vois, la vérité du lieu, parce que je comprends que ce truc, tu vas le créer au fur et à mesure, mais si je sais que dès maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, pour moi, ça rend ce que j'ai vécu là un peu plus plan-plan, en fait.
Ouais, je crois que c'est lié aussi à... je crois que KF, en fait, joue plus avec des préparations plus claires, tu vois, plus détaillées. Alors, c'est pas nécessaire que tu aies une structure géographique.
Oui, bien sûr, là, j'exagère à fond, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, dans ces ruines-là, c'est l'ambiance, les salles clés qui doivent avoir lieu. Alors, comment elles sont embranchées, c'est autre chose. Des objets de pouvoir, des textes à trouver,
des PNJ aussi.
Voilà, des PNJ forts avec des éléments de dialogue qui vont être donnés pour donner des indices, pour donner de la couleur.
Mais en fait, dans le jeu, effectivement, l'idée, c'est de créer ses propres domaines. Donc déjà, tu mets ta patte à toi, quoi, avant de commencer la partie. Et effectivement, c'est un peu plus cadré que ce que moi j'ai fait. Moi, j'aime bien l'impro, un peu YOLO, quoi. Mais effectivement, c'est pas très pertinent vis-à-vis de ce que tu dis au niveau de l'OSR, ouais. Ce côté tangibilité du lieu. Mais ça, c'est vrai, ouais. Ouais, t'as raison. C'est très exact.
Ok, donc du coup, tu réponds en partie à cette critique, c'est parce que c'est un peu ce que l'auteur encourage.
Je pense que KF, faudrait que je vois. Je suis pas certain. Je pense qu'il y a un côté faites ce qui vous va, ce qui vous plaît, tu vois. Ouais. Même si le mode de jeu de base est plus construit que ce que moi j'ai fait, tu vois.
D'accord.
Donc c'est un peu à tes risques et périls, tu vois.
Ouais.
Il y a un côté comme ça, quoi. Okay. Mais le mode de jeu est plus cadré. Après, en fait, ce que j'aurais dû faire, je pense, c'est créer un propre domaine. Créer mon domaine à moi, parce que là j'ai utilisé la préparation, une préparation proposée par KF, et je l'avais pas bien, j'ai pas réussi à me l'approprier, en fait.
Alors moi, par contre, je pense que je me suis bien approprié celle que j'ai faite, parce que je l'ai jouée juste avant, et donc il y a des éléments dedans, j'ai essayé de vraiment jouer le jeu à fond, c'est-à-dire vraiment prendre les éléments qui étaient dedans, qui me plaisaient, puis prendre les éléments que moi je trouvais cool et rajouter et forger autour de ça, et donc typiquement, nos deux lieux, en quoi ils divergeaient j'ai mis une petite anecdote. Toi, quand t'arrives, il y a une bougie posée devant la statue qui est allumée. Et ça, pour moi, c'est mon personnage qui est passé auparavant, qui a allumé la statue. Il a déjà fait le scénar ici. Il est déjà parti. Et toi, t'arrives peu après, en fait. Quand tu arrives dans la zone où il y a le liquide lumineux, il en manquait une partie. Il y en avait partout qui a été renversé parce que mon personnage est venu avant, en a renversé, il en reste plus beaucoup. Alors après, la zone en question était très différente de celle que j'ai vue. Moi, c'était un petit bassin en bas de la tour. Bon, il y avait tout un alambic gigantesque de la taille d'une tour, machin.
Il y avait un orgue de verre et de cristal géant avec un réseau alchimique de plein de produits avec des odeurs improbables.
Un des éléments qui est décrit au tout début de la préparation, dans le texte d'intro de la préparation, c'est tu es dans ce canyon, il y a le vent qui te frappe, etc. Et je me suis dit, ça serait cool que le vent vienne du bâtiment. Genre, voilà. Donc le vent venait de l'intérieur du bâtiment. Dans la préparation de Valentin, le sol était fissuré à un endroit avec un gros abysse qui plongeait dans les ténèbres. Et je me suis dit, c'est cool, le vent il vient de là. Donc moi, il y avait cette faille qui faisait un énorme tourbillon du vent dans la salle centrale. Il y avait une tempête de feuilles de papier. Donc ça, c'était pas du tout présent dans celle que j'ai jouée. Et après, l'autre élément, c'est que quand j'ai joué la partie avec Valentin, il y avait l'aspect, j'ai trouvé un liquide lumineux. De ce que je lisais, c'était l'âme, machin, etc. J'ai vu qu'ils avaient travaillé sur un corps, mais j'avais aussi trouvé des éléments d'huile noire, sauf qu'en fait, c'était pas très explicite de la partie du côté de Valentin sur ce que c'était, pourquoi c'était là. Et moi, j'ai trouvé ça cool, quand je t'ai lancé la partie, de dire le feu a créé son antagonisme, qui est cette force obscure qui est sa propre fin. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était pour animer cette déesse, il faut à la fois de son âme, il faut à la fois un corps. Et il faut à la fois sa propre mortalité.
Le feu noir.
Et donc en gros, ils avaient deux zones alchimiques. Une zone alchimiste où ils créaient ce liquide doré, et une zone alchimique où, en gros, il y avait un endroit où ils passaient les corps vivants de créatures dans le dispositif alchimique pour extraire leur substance de vie. À la fin, il restait des ossements. Ces ossements, ils le passaient dans la deuxième zone où là, ils extrayaient l'essence de mort de ces ossements. Et grâce à ces trois trucs-là, ils voulaient créer un truc. Donc, je t'aurais fait jouer autour de ça avec des livres, avec des machins pour soit recréer la déesse, soit franchir le portail. Enfin, là-dessus, c'était un peu plus ouvert. Mais donc, moi, j'avais trois ailes dans les bâtiments, là où moi, j'en avais eu qu'une dans la partie que j'avais jouée.
Très, très bien, ouais.
Donc j'ai essayé de jouer ce jeu de la symbolique, de changer
rigolo,
des éléments, de l'interpréter.
C'est rigolo le fait aussi que t'as introduit les actions de ton personnage dans la fiction suivante.
Ouais.
C'est très Dark Souls.
C'est rigolo parce qu'en fait, juste avant que je commence, Valentin me dit « Ah, au fait, faut que je te dise un truc, ça peut être intéressant que tu mettes des passages de mon personnage. » Donc il parlait de son personnage à lui. Puis en fait, moi c'est rigolo parce que j'y avais pensé aussi faire des traces de mon personnage. Au début, je pensais juste mettre une bougie devant la statue en mode un petit truc.
C'est marrant parce que la bougie, je l'ai pas du tout interprétée comme ça. Mais vis-à-vis du liquide, je l'ai tout de suite interprété comme ça. Ce côté, il y a d'autres gens, d'autres élus, parias ou autres qui sont passés par ici.
Entends, putain, oh. C'est chiant. Ouais, je suis désolé.
D'autres élus, d'autres parias qui passent par ici, qui tentent de faire la même quête que moi, la quête du feu. Et avec ce côté intemporel d'eux, peut-être qu'ils passent à 100 ans d'écart à chaque fois, que la poussière s'accumule et tout. Mais ça, c'est dans la symbolique et dans le côté Dark Souls, ça marchait très bien ce côté. Et encore plus quand entre les morts, du temps se passe. Et tu me dis que le liquide, après ma mort, il a diminué encore de moitié et qu'il ne reste plus de fioles. Des gens sont passés, en ont pris aussi. Ça contribue à cette ambiance particulière-là qui est assez sympa. Ouais.
Bon, un des éléments qui m'a gêné aussi pendant la partie, en fait, dans la comparaison à Dark Souls, parce que dans la comparaison à de l'OSR, c'est une partie assez standard, en fait. Après tout, il n'y a rien d'extraordinaire. On pourrait dire que c'est de l'OSR, on ne ferait aucune référence à Dark Souls. C'est de l'OSR, il y a quelques règles en plus, il y a de l'ambiance, il y a le fait de revenir à la vie quand on est mort. Un des éléments qui, moi, m'a un petit peu dérangé, c'est que la temporalité de la partie, enfin, pardon, pas la temporalité, le rythme de la partie est très lent, parce que ça, c'est lié à l'OSR. Et certes, ça va avec l'aspect un peu contemplatif des ruines, mais moi, ça ne m'a pas invité du tout à mettre de combat, en fait. J'en ai mis un petit peu, mais le fait qu'on soit tellement dans cette lenteur-là, ça manque d'un certain dynamisme en fait qui me plaît dans Dark Souls. En fait, l'excès de prudence que l'OSR induit pour moi était un peu dommageable à la partie. Quand on est dans une ambiance de grandes ruines, grands vestiges, machin, je m'attends presque à ce que les pièges soient désactivés en fait. Pour cet aspect-là était.
Ah, ça c'est vraiment l'un des points qui m'a où j'ai le plus de mal, c'est ce côté. À un moment donné, quand t'es dans un état de prudence permanent. Alors j'essaie de le faire rapidement, mais c'est un des points qui vis-à-vis de l'OSR me pose problème, c'est que le concept même de piège en design, je trouve que c'est assez foireux, parce que soit tu te le prends, c'est punitif, soit tu l'évites, mais tu sais pas que tu l'as évité, t'es pas récompensé.
Ouais, mais en fait.
Et en fait, t'es juste dans un état de prudence permanent.
T'as raison.
Et c'est fatigant cette espèce de. Bah, j'avance prudemment, je fais ça prudemment. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que ma mort sur le sarcophage, moi j'avais le sentiment de le décrire assez prudemment, d'être en mode je reste loin, je me mets sur la pointe des pieds et j'observe. Ouais. Mais juste, j'ai pas été aussi prudent et aussi paranoïaque que tout le reste du temps. Et au bout d'un moment, j'avais marre de retourner en arrière tout le temps, prendre des cailloux et les lancer.
Ça,
quoi. C'est ridicule.
Ça, c'est un truc qui n'est pas dans nos parties en fait, avec KF. Cette prudence excessive en fait. Parce que on a effectivement identifié le problème. Et avec KF, le côté je suis surprudent parce que il faut que moi-même je fasse l'initiative de demander en fait de faire des actions pour éviter des pièges dont j'ai jamais entendu parler. C'est un truc qui ralentit beaucoup trop la partie, comme vous l'avez dit. Et en fait, ce qu'on fait, et j'ai pas pensé, donc c'est voilà, le jeu est en préparation. Il faut aussi voir tous les éléments, comment en fait structurer l'information pour avoir par exemple une liste de principes. Donc KF réfléchit à une liste de principes à donner un peu à l'Apocalypse Sword, si vous voulez, à donner au meneur de jeu, de manière à ce qu'il ait un résumé des informations auxquelles penser pour que l'expérience de jeu, pendant qu'il y joue, soit la plus...
On est dans un piège, Adrien. On a entendu le piège se refermer.
La plus sympa. Et en fait, l'idée, c'est que quand on joue, KF me dit... me donne des infos, et va toujours me donner les infos au sujet d'un piège avant que je puisse m'y confronter. Donc par exemple, si jamais il y a une porte piégée, il va me dire, il y a une porte avec des inscriptions bizarres, tu vois. Il va toujours me dire, il y a un couloir et le sol est très inégal, tu vois. Et ça va être que des choses comme ça, où je peux avoir la puce à l'oreille, et si KF me dit, il y a un couloir devant toi...
Je sais qu'il n'y a rien de...
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas à trop... En fait, il n'y a que des éléments qui ont été évoqués dans les descriptions, qui peuvent être l'objet de danger s'il est... plutôt clair que
c'est,
ça peut en être.
C'est
hein, quoi.
Dur, ça joue. C'est dur, ça joue en permanence. Hein. D'avoir cette rigueur-là dans la description et cette rigueur-là en tant que joueur à faire attention à ça. Je comprends.
Bah, ça fluidifie nos parties pas mal, en fait. Bah, en fait, clairement, ça les accélère et c'est beaucoup plus plaisant pour moi.
Un des éléments aussi, c'est que. Enfin, c'est rigolo parce que moi, la partie m'avait beaucoup intéressé en amont parce que j'ai aussi réfléchi à un jeu inspiré de Dark Souls. J'ai rien mis en pratique parce que j'arrivais pas à résoudre la quadrature du cercle. Hein. Mais moi, les aspects qui m'intéressaient le plus, c'était cet aspect arriver dans des ruines grandioses. Et avoir des personnages hauts en couleur qui ont des motivations et des pouvoirs complètement irréels. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Et l'aspect exploration, piège, petit monstre, ben, c'est pertinent dans le jeu vidéo, c'est pertinent dans l'OSR où tu fais ça, mais j'arrivais pas à imaginer le grandiose et le détail en même temps, en fait. Donc c'est un peu un élément aussi que j'avais en tête qui peut-être m'a fait critiquer aussi le jeu sur ces aspects-là parce que moi j'avais ce que j'attendais de Dark Souls en fait.
Et moi à l'inverse, Antoine, je dirais que dans le jeu vidéo Dark Souls, ça se passe pas du tout comme ça, le gameplay et l'ambiance. Et là ce que tu dis par contre Valentin, c'est une bonne piste, mais je pense qu'il faudrait rendre ça encore plus explicite. Dis-moi si je me trompe de ce que j'ai compris, mais comme tu dis que c'est à la fois un outil pour être plus clair, mais aussi un outil pour ne pas perdre du temps avec un excès de prudence, au final c'est assez explicite dans ce que te dit KF. C'est un couloir, sous-entendu, il est normal, tu peux y aller rapidement. Et c'est un couloir, mais le sol est inégal, sous-entendu, il y a un piège. C'est presque assez clair.
Il peut y en avoir un, tu vois.
Ok. Mais tu vois, typiquement, c'est là où, pour moi, il y a une immense différence dans comment tu vois, moi, je me suis beaucoup dit pendant la partie, factuellement, un Dark Souls, comment c'est fait. Et je pense qu'il y a une. En tout cas, dans cette OSRisation de Dark Souls, il y a une image, un peu un fantasme de Dark Souls qui est fait. Dark Souls, c'est pas des pièges cachés.
Mais en fait, cette histoire de piège, moi j'ai pas mis de piège dans le donjon, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est aussi.
C'est pas un import de votre culture OSR.
C'est un import de l'OSR en fait.
Ouais, mais en fait, je crois que c'est un mauvais import. Et je me demande à quel point, il faudrait que j'en discute avec Kef, ce serait pas une bonne idée de les virer et d'en faire des pièges totalement obvious. C'est-à-dire,
des lames pendues, voilà, tu vois les lames pendues.
Et donc tu dois gérer un problème.
Alors, il faut faire attention parce que dans les pièges, il y a aussi. Tu tournes un couloir et il y a un monstre dans l'angle qui est quand même vécu comme un piège en fait, qui participe de l'effort de prudence de je marche précautionneusement, je fais attention à ne pas faire de bruit, machin. S'il y a quelque chose derrière les décombres, où sont cachés les monstres, je regarde à gauche, à droite, au-dessus, en bas.
C'est ça, quoi. Mais en fait...
tout ça participe en fait. Parce que dans Dark Souls, le jeu vidéo, les pièges sont cachés. Il y a plein de les premières fois que tu les découvres, il y a des types de dalles au sol qui activent des pièges. En fait, le jeu. C'est un jeu de l'apprentissage, c'est par apprentissage dans Dark Souls que tu meurs. Il te dit pas sois prudent tout le temps, il te dit prends-toi les pièges la première fois tout le temps.
C'est assez compliqué parce que
les ennemis cachés dans le couloir, t'arrives à une jonction hantée, tu regardes à droite, tu vois, ah c'est la suite du couloir. Tu tournes à gauche et là t'as le squelette qui est déjà en train de te sauter dessus.
Il y a plein de choses très très importantes là-dessus factuellement sur comment ça fonctionne. Là, tu vois, et vraiment dans ma partie, je comparais factuellement, ce qui peut-être était une erreur clairement, tu vois, c'est l'adaptation, mais je comparais factuellement à Dark Souls. Les lieux sont vides, j'explore, j'ai la fontaine, à l'entrée, la statue et compagnie. Dans un Dark Souls, 11 ennemis sur 12 sont visibles, clairement, ils sont là, ils t'attendent. Il y en a un qui est un peu caché, mais toujours visible, et qui, quand il va te tomber dessus, c'est pas pour te one-shot, mais c'est pour te faire un petit dégât. Ou alors, éventuellement, en vrai, il va pas prendre l'initiative sur toi, juste tu vas être stressé, mais en vrai, le combat se lance sans avantage particulier. Et... une fois sur 14, il y a un piège qui est toujours un petit peu indiqué et qui, au moins, même si tu le prends une première fois, tu peux l'éviter, pas parce que tu sais qu'il est là, mais parce qu'en revenant, tu vas avoir « Ah oui, en fait, il était visible !» systématiquement. Et donc, en fait, c'est très, très, très important ce côté. Déjà, ça te crée plus de rythme, t'as des combats réguliers, t'as de l'action en permanence. Et effectivement, si on est plus dans quelque chose où les problèmes sont toujours visibles, mais la question, c'est comment je m'y prends, comment je vais faire. Si la prudence, c'est comment je fais pour régler ce problème, mais le problème, je l'ai vu, et pas ce truc permanent de je traîne la patte parce que je sais pas où sont les problèmes et je vais m'en prendre dans la gueule par surprise, c'est fatigant quoi. Et en tout cas, tu vois, j'irais beaucoup plus loin dans ce que tu dis, c'est pas juste en faire un conseil ou un indice, ça peut être un truc méta, mais dire factuellement, tu sais pas comment c'est piégé, tu sais pas pourquoi c'est piégé, mais là, entre maintenant et les 20 mètres qui suivent, c'est piégé. Ou alors, tu vois une grande lame pendue sur le côté machin, mais t'as pas vu le déclencheur. Toujours avoir... une part de l'info obtenue pour créer un gameplay de contournement, pas un gameplay de...
Le côté méta est pas pertinent pour Cimetière, mais effectivement, il y a ce... Mais je pense que c'est ce qui m'a manqué là pour le playtest, c'était...
Je parle juste de contrat social, tu vois, en termes de méta.
Ce qui m'a manqué, c'était effectivement les principes de lister clairement, mais c'est super important comme remarque. Ouais.
Yes. Parce que là, c'est marrant, c'est le fait d'avoir inscrit ce jeu dans l'OSR qui finalement va parasiter la dynamique et donc la partie, enfin de ce que je comprends hein, de votre discussion, ouais, parce que moi ouais. Encore une fois je n'ai pas joué donc mais c'est curieux en tout cas parce que intuitivement quand on parle de la dimension punitive Dead and Retry de Dark Souls, intuitivement quand on se dit il y a une adaptation JDR à faire, immédiatement, ce qui me vient en tête, c'est l'OSR.
Alors, il y a ça, mais ça ne se réduit pas à ça. D'ailleurs, c'est intéressant, moi, ce que je recherche dans Dark Souls, virgule, c'est un truc que tous les fans de Dark Souls vont compléter différemment, j'ai l'impression.
Oui, bien sûr, ouais, carrément.
Oui.
Alors, expliquez-moi ça. Parce
voilà,
que
l'idée, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui me parlaient de Dark Souls, moi, j'y connaissais rien, et j'ai l'impression de voir des jeux différents, quoi. C'est-à-dire des gens qui disent, mais moi, ce qui me plaît dans Dark Souls, c'est le côté exigence, c'est que vraiment, t'es pris comme pour un. On te prend au sérieux en tant que gamer, on va pas te faciliter la tâche. Puis il y a des gens qui disent, non, mais moi, vraiment, ce qui est ouf dans Dark Souls, c'est le grandiose, l'immersion, etc. Tu fais, ok, ça n'a aucun rapport, mais très bien. et comme ça, et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont leur expérience. Ou alors, découvrir le lore, comme on dit, fiction. Et...
Il y a le level design, certains ils vont trouver le level design du 1 trop bien, et puis dans le 2 et 3, ils vont être déçus, et puis il y a plein d'éléments qui interviennent.
Même dans la famille challenge, t'as ceux qui vont être en mode, je vais relever les challenges tels qu'ils se présentent à moi et prouver ma valeur, entre guillemets, ou mon skill. Il y a ceux qui sont en mode, non, ce qui est rigolo, c'est que le jeu te laisse faire plein de tricks foireux, diminuer la difficulté artificiellement en faisant des trucs, en abusant du level design pour faire contourner, alors que moi typiquement je suis en mode non, je combats à la loyale et je vais me faire défoncer la gueule en boucle, mais je vais gagner au bout de la 20e tentative à la loyale et je vais kiffer quoi. Ça c'est plus moi je suis dans Dark Souls, je suis un paladin, tu vois.
Oui. je vois ça. Ok, très bien. Donc quelles étaient les intentions de KF en matière d'émulation de Dark Souls, puisque tu as dû parler de Dark Souls avec KF?
Oui, on a beaucoup parlé, hein, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'elle te dit sur ce qu'elle pense du jeu? Est-ce que elle, justement, ce qui lui plaît, c'est la dimension grandiose?
Je crois qu'en fait, pour KF, il y a un côté irréductibilité au jeu de rôle de Dark Souls. C'est-à-dire, Dark Souls, c'est très riche, et je pense que KF est fan de Dark Souls de toute façon, à travers ses différentes dimensions. Mais que pour Cimetière, qui est une certaine adaptation, il y a un cadre, une perspective d'adaptation. Avec cette idée, alors dans ce cas-là, de jouer sur le temps long. Donc on va revenir à la vie, donc c'est un jeu plutôt fait pour la campagne. Et on va continuer, progresser et découvrir des mystères. Donc il y a un premier élément qui est le côté découverte symbolique, très progressive, avec des hypothèses sur ce qui s'est passé qui sont jamais complètes, on va jamais t'expliquer pleinement ce qui s'est passé. C'est un jeu d'enquête à l'échelle d'une campagne où t'as pas besoin de découvrir le prochain indice pour avancer, mais c'est juste que tu vas découvrir des indices de toute façon puisque tu vas visiter des lieux successivement, et tu vas pouvoir comprendre la mythologie générale de Cimetière. Et donc chaque meneur est invité à inventer sa propre mythologie, à la faire découvrir aux joueurs. Donc moi je découvre la mythologie de cette campagne là à laquelle j'assiste,
ouais.
En plus de du contraste avec les emmerdes ici et maintenant, c'est à dire ok, à un moment donné je suis pris dans des couloirs, il faut que je sois concentré. Pour moi il y a une sensation de flow dans Cimetière parce que je suis concentré, j'essaye de garder garder en tête les éléments que j'ai eus, les bruits de monstres, la gestion de mon matériel, les lieux, les garder en tête, les risques que je peux prendre, et j'avance avec ce contraste. Et à un moment donné, j'arrive dans une pièce immense qui est signifiante en termes de mythe, en termes de mythologie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour rien, mais je ne sais pas exactement à quoi elle sert, et je m'imprègne comme ça symboliquement avec un contraste de gameplay, tu vois, entre de l'exploration, de la gestion de ressources, et... de la découverte de...
Le saut de paradigme, entre guillemets, voilà. Spectaculaire. Et
donc ça, c'est en tout cas moi comme ça que je vis la campagne de Cimetière, mm-hmm. Avec des passages où je reste coincé trois parties de suite dans un caveau lugubre, et ça avance pas, et je galère. Et en fait, quand j'arrive à dépasser la zone, il y a ce phénomène de satisfaction, en fait, qui est redoublé par le fait qu'en plus, je découvre quelque chose de nouveau, et ça me fait... donc c'est des moments très puissants, en fait, dans le jeu, cette frustration, et je crois que ça c'est un truc très Dark Soulesque.
Antoine valide, apparemment.
Donc je pense qu'il y a, toutes ces ambitions là.
Je sais pas si je serais prêt à jouer trois scénarios dans la même zone à m'emmerder contre. Tu vois, à galérer pour affronter le truc derrière. Parce qu'en fait, dans le jeu de rôle, 3-4 séances, c'est très long comparativement à je galère dans telle salle de Dark Souls et ça va me prendre peut-être un quart d'heure avant de comprendre comment vaincre les ennemis, puis je vais passer. Dans Dark Souls, oui, il y a l'aspect frustration de je me heurte à un mur, mais on le tente plusieurs fois rapidement. Et même si c'est fastidieux, c'est court. Autant d'une vie humaine, en fait. Hein.
Bien sûr. Oui,
dans
bien
le
sûr,
jeu de rôle, même chose, j'ai l'impression que tel que tu le dis, c'est...
L'idée d'aller s'organiser une soirée, de faire 40 minutes de métro pour aller rejoindre son pote, pour faire une partie qui va se dérouler dans les mêmes égouts qu'il y a... C'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Mais je comprends la sensation qu'on peut ressentir.
Ouais, il y a une mise à l'épreuve, en fait. C'est-à-dire... Il y a un côté, ok, avec du player skill.
On exagère
quoi.
Peut-être aussi.
Mais hein. c'est quoi qui te bloque dans ce genre de scénario ? C'est quoi ? Il a prévu des puzzles, des sortes d'énigmes, d'objets qui doivent interagir avec l'environnement pour avancer.
Pour donner un exemple.
Quelle est la résistance ?
Ouais, c'est quoi qui résiste vraiment ?
La résistance, c'est la bonne idée en fait. C'est-à-dire, j'arrive face à une situation problématique et ça se passe très vite et je me fais charcuter. Et là, je me dis, ok, je reviens avec une nouvelle idée. Et donc du coup je vais explorer le donjon pour trouver les ressources qu'il me faut pour mobiliser cette nouvelle idée et je la mobilise et ça passe en général et des fois ça passe pas et là je me dis ok, alors mais il y a toujours une voie de sortie, c'est à dire qu'on peut toujours ne pas se confronter directement aux épreuves et partir, on est moins récompensé en termes de ressources, mais on peut toujours esquiver une zone si vraiment on est bloqué quoi. Mais moi je voulais rester en fait, car j'étais là en mode je vais y arriver en fait.
Je vais y arriver. Ouais.
C'est-à-dire que
je veux y arriver.
Typiquement, il y a des zones, j'arrive, le boss, je fais OK. Il y a une des zones, c'est impossible. Juste, j'ai trouvé une voie pour esquiver. Mais il y a un moment donné, je me suis dit si, je vais y arriver, j'ai une technique, je vais la mettre en place et ça va marcher. En fait, c'est moi qui voulais rester quoi. J'étais pas en train de me dire bon, bah, on recommence et tout. Donc j'étais accroché quoi. J'étais vraiment en mode non, ça va pas se passer comme ça. On va triompher quoi.
Antoine. Moi j'ai envie de te demander, c'est vraiment là, genre je reviens avec mes problèmes à l'OSR, mais comment tu fais pour y croire ? Comment tu fais pour avoir cette croyance-là, te dire cette conviction, tu dis non, je vais trouver un moyen, ça va passer, etc. Dans ce que moi je vis comme un gameplay où tes possibilités d'action sont hyper réduites, où justement t'es vachement soumis à la bonne idée ou pas. Et en fait, il y a même des moments donnés où c'est même pas une question de bonne idée ou de mauvaise idée, c'est que moi j'avais le sentiment de pas avoir d'outils, de pas avoir de. Et au contraire de pas pouvoir esquiver et d'être en mode bon bah je suis obligé de retourner, de me frotter au même mur, ou alors si je fais demi-tour mais est-ce qu'on va pas avancer,
ouais,
si
là dans la préparation il n'y a pas de voie de sortie dans celle qu'on a jouée, ce qui est un problème en fait. Il faudrait pouvoir avoir plus de richesse pour justement contourner les problèmes et après la bonne idée c'est des fois t'as pas de bonne idée en fait, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment avancer, tu fais bah on va juste contourner le problème. On va juste passer à la suite.
Réussir à contourner le problème, c'est un challenge et il faut une idée pour ça.
C'est ça. Bah là, dans la préparation, c'était... il faut, si tu explores suffisamment, en fait, il y a un certain nombre de prescriptions en termes de contrat social dans un cimetière pour que justement tout ça puisse bien fonctionner. En fait. Et c'est effectivement des choses qui, à mon avis, devraient être listées dans le jeu final. Je parlais des principes. Il y a notamment ce principe qu'on applique avec KF qui est si tu explores suffisamment, tu trouveras une voie de sortie. Il y a un côté comme ça, tu vois. Si tu vas suffisamment dans l'exploration, il y aura un moment donné où tu vas pouvoir sortir, mais tu n'auras pas les secrets, tu vois. Donc quand tu bats un boss, par exemple, d'une zone, eh ben, tu as des secrets et des ressources, tu gagnes des secrets et des ressources. Donc dans la quête du feu, tu as peut-être intérêt à, si tu penses pouvoir défaire un boss, y aller et tout donner. Tu vois, c'est ça qui me motive, moi, à me confronter au boss, en fait. Parce que je me dis, je vais découvrir quelque chose derrière. Et ça va être important pour la campagne, en fait.
Très, très bien. Bah, moi, n'ayant pas joué, j'ai assez peu de commentaires à faire. J'avoue que moi, je suis un petit peu comme Antoine sur ce genre de... J'ai du mal à concilier l'impératif de précaution avec la contemplation. Ouais. Et avec, c'est vrai que c'est complexe, ça.
L'impératif de précaution, comme je le disais, c'est quelque chose qui effectivement...
C'est à prendre en compte, je pense, dans les conseils qu'il va donner.
Dans les principes, parce que je pense que c'est pas une bonne chose, en fait. Je pense pas que la précaution... Moi-même, quand je joue avec KF, je suis pas en mode précaution. J'avance, j'explore, mais En fait, c'est assez cognitivement assez simple.
Il faudrait pas vouloir éviter, quoi. Il faudrait vouloir surmonter.
Ouais, oui. C'est ça, voilà, exactement. Et donc, c'est beaucoup plus explicite, en fait. Les défis sont beaucoup plus explicites dans ce qu'on fait avec KF. Et il faut que ça soit comme ça, je pense. En tout cas, j'en discuterai avec elle. Après, il y a des éléments que vous n'avez pas tellement vus, puisque ça se déploie en campagne. J'aimerais un petit peu les citer ici. Mais donc là, on a parlé du gameplay, de l'exploration, de résolution de problèmes, gestion des ressources, mais il y a aussi l'enquête un peu symbolique, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en plus de ça, il y a quelque chose d'assez fort, qui est la construction du personnage. C'est-à-dire qu'au début, le personnage, c'est un peu une page blanche, il a peu de souvenirs, et petit à petit, on va se confronter à des personnages non-joueurs qui vont un peu nous tester. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu continues la quête du feu? Tout ça n'a aucun sens.
Il y a un aspect quand même très bizarre dans tout ce que tu décris, vu... Je pense qu'il faut qu'on le spoil quand on meurt, comment on revit. C'est quoi tes souvenirs, en fait, au bout d'un moment?
Il y a toute une question autour de ça, ouais.
Pour moi, c'était pas clair du tout si c'était vraiment mes souvenirs à moi ou les souvenirs d'autrui, où il y avait des flous comme ça qui sont...
Du coup, je vois pas comment tu peux dire qu'un personnage se crée là-dessus. Enfin, en gros, à chaque fois que tu meurs...
Ouais, parce que spoil, je comprends rien.
Chaque fois que tu meurs, tu reviens à la vie, mais pas dans le corps dans lequel t'étais, dans un autre corps présent sur les lieux, avec des caractères différentes et peut-être avec des souvenirs différents.
Donc tu mets tes anciens
souvenirs sont toujours là.
D'accord,
non, okay. Tu ne ferais pas tes objets. Tes objets sont ceux que possède le corps sur lequel tu réussis.
Il faut looter ton propre cadavre.
Et tu peux aller looter ton propre cadavre.
Ok.
Sauf que souvent, ton propre cadavre, il est à côté d'un truc très dangereux. Donc du coup, le truc très dangereux, tu dois l'affronter à poil.
Oui, bien sûr. Oui, donc quand tu repop, t'es à poil et il faut aller looter ton propre cadavre.
Typiquement, dans ma partie, mon perso mort avec la bestiole qui lui tombe sur la tête, il réapparaît dans une, deux, trois pièces avant, dans un tas de cadavres, il ressort, il fait « Oh, pff, là là !» Et il a un souvenir qui est « J'ai été élève ici, c'est moi qui ai montré à mon maître comment distiller la lumière, je sais pas quoi, machin, et on m'a poignardé à ce moment-là. » Sauf qu'en fait, c'est quoi mon passé à ce personnage-là?
Ah ben si, tu peux imaginer quand même que c'est comme dans Néphilim, c'est-à-dire que le Néphilim, il a sa propre histoire et il sait distinguer ce qui est de l'ordre de ses propres souvenirs des souvenirs qu'il a empruntés au cadavre qu'il a visité.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Alors c'est compliqué. J'avoue que j'avais posé les mêmes questions à Yann Sully à l'époque où on jouait à Néphilim, mais en gros, c'est ça quoi. Il faut y partir de l'idée que l'identité personnelle de ton personnage, elle est, c'est-à-dire qu'il sait distinguer, voilà, c'est ça, ses souvenirs, des souvenirs qu'il a capturés de d'autres. D'accord. Créatures. Mais j'avoue, je comprends le problème. Ceci dit, donc, il réapparaît, il repop dans un cadavre à proximité, mais à une époque indéterminée par rapport à la mort de l'autre personnage.
C'est plus tard.
Plus tard. Indéterminé.
Ben, t'as quelques indécent. Indices, quoi. Non.
Non, d'accord.
C'est à quelques indices, tu vois. Tout n'a pas changé, t'es pas plusieurs millénaires plus tard, quoi.
Très bien.
Mais ouais.
Très, très bien.
Et donc, il y a ce gameplay à long terme. Ouais. Où petit à petit, on va découvrir des choses, on va aussi constituer pourquoi est-ce qu'en fait je recherche le feu. Parce que ça, c'est un gros enjeu dans ce cimetière. C'est ok, peut-être qu'en fait j'ai envie de me venger, j'ai envie de détruire le monde, hein, je sais pas. Et donc ça se construit au fur et à mesure. Mm-hmm. Et il y a un phénomène émergent qui est on va être testé sans cesse au niveau de cette quête qui, au fond, n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Et donc, il y a un effet très fort, en fait, c'est finalement, c'est un jeu, pour moi, un jeu vraiment sur la volonté pure. C'est quelque chose où peut-être que tout ça n'a aucun sens, ou alors peut-être qu'on projette du sens sur ce qu'est le feu, simplement pour pouvoir continuer. Et pour moi, je vois finalement cette campagne comme quelque chose de très méta, dans le sens où, si j'abandonne, la campagne, c'est
l'abandon du feu. Et la fin du monde, en fait.
Voilà, c'est ça. Et aussi, il y a un côté, je pourrais aussi me dire, en fait, ça suffit, c'est très bien, j'ai eu ma dose. Parce qu'en fait, au fond, c'est une question qui est posée aux joueurs, tu vois. Genre, veux-tu continuer? Je trouve ça...
Entretenir la flamme, quelque part, ça veut dire restart, quoi.
Ouais.
Ça, pour le coup, c'est complètement dans l'esprit de Dark Souls aussi. Il y a beaucoup de sous-entendus dans le fait que les morts-vivants qui ont perdu toute humanité, c'était pour beaucoup aussi des gens qui cherchaient la flamme ou qui suivaient cette quête ou quoi et qui ont abandonné, qui ont tombé dans le désespoir et qui deviennent, qui perdent conscience, perdent d'humanité.
Des joueurs déchus, ça, voilà. des simulacres de joueurs vides.
Dans Dark Souls, il y a ça à fond. Hein. Ouais. Dans Dark Souls, le jeu vidéo, tu peux trouver des messages laissés par d'autres joueurs. L'interaction est juste textuelle. Et ça peut être des aides, ça peut être te mener dans un piège, ça peut être vulgaire.
Mais après, c'est, à long terme, je vois bien comment ça peut s'accentuer et créer ça, mais ça revient sur le côté page blanche du personnage et tout. Et en tout cas, au début, c'est vachement compliqué. Parce que, alors, j'ai trouvé ça vachement intéressant, ceci dit, de quand même avoir cette idée de chercher une motivation pour le personnage
Antoine.
Plus riche que choper de la thune dans les donjons. Mais elle est quand même très compliquée à assumer au début. Et moi, dans ma partie, j'étais vraiment en train de me dire souvent... Enfin, il y a ce côté, j'avance, et même sans me prendre de piège, en fait, j'avance prudemment, je regarde, y a évidemment ces problèmes de prudence dont on a parlé et qu'il faut clarifier dans les intentions du jeu. Mais il y avait quand même beaucoup de moments où j'étais là, mais j'avance pour trouver une sortie, mais elle n'est pas claire, ouais. Je reste là, mais c'était pas de la volonté au sens je vais y arriver, machin, parce que comme il n'y avait pas de plaisir dans le challenge par ailleurs, c'était très compliqué, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a cette question
juste
du.
Juste dans la manière dont on explore l'univers, Valentin, puis après je te laisse poursuivre. Ça me fait beaucoup penser aussi à la façon dont on parle souvent de Cthulhu autour de cette table. Cthulhu, c'est un jeu dans lequel finalement le personnage n'est qu'un simulacre pour le joueur qui découvre les secrets du mythe de Cthulhu, quoi, finalement. Donc il va mourir plein de fois, son simulacre va mourir, et le joueur gardait quelques souvenirs, quelques connaissances de son personnage, dont il va... Et en fait, finalement, on peut se poser la question, qui est l'investigateur du mythe de Cthulhu ? Est-ce que c'est le joueur qui est toujours respawn avec un personnage, ou est-ce que c'est vraiment le personnage, l'investigateur, tu vois ? Et donc ça, je trouve qu'on retrouve quelque chose de... une parenté en tout cas entre ce jeu et la façon dont on parle de Cthulhu souvent ici. Continue, vas-y.
Après, il y a juste un... Donc voilà, donc ce point-là, pour moi, c'est un peu la raison pour laquelle je trouve Cimetière extrêmement fort.
D'accord.
C'est qu'il y a une question existentialiste qui est posée en permanence, parce qu'en fait, on est plutôt une page blanche. Et finalement, les souvenirs ne sont pas si importants que ça pour définir ce qu'est le personnage.
C'est la volonté.
Exact, la volonté et ce qu'on décide de faire.
Ouais,
donc, il y a un ensemble de choix dans le jeu qui sont l'ordre. Est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais écouter ce qu'on va me dire ? M'en foutre. Donc, moi, mon personnage est totalement nihiliste. Et y a un choix existentiel particulier de je veux retrouver le feu parce qu'il me faut bien un sens. Ça ou autre chose, qu'importe, quelque part. Et il y a vraiment un positionnement au sujet des questions existentielles. Qu'est-ce que mon personnage décide de faire, quoi, ici et maintenant ? Et il y a plein d'options, en fait.
Ah, ouais, hein.
Je repense à ce que tu disais, Antoine, sur la motivation du personnage à rechercher le feu. Moi, j'ai pas eu trop de soucis avec ça, parce que, en fait, j'arrive à me projeter dans ce personnage qui, étant amnésique, étant des endroits perdus qu'il ne connaît pas, en fait, soit il continue le chemin, soit il reste dans un éternel ici parce qu'il n'a pas d'issue. Pourquoi il ferait demi-tour, en fait ? Et donc, je comprends que ça puisse être pas suffisant pour certaines personnes. Pour moi, ça l'était, en fait. C'était pas. Je le voyais tout à fait comme le mort-vivant un peu décérébré qui a son truc en tête et voilà,
me l'approprier comme ça, mais.
Je peux pas te dire pourquoi, quand je pense au SR, je pense Doom-like, moi. C'est-à-dire que je pense, quand j'imagine une partie au SR, j'imagine à travers les yeux du personnage. Là où toute autre partie de jeu de rôle, j'ai souvent tendance à penser en mode jeu impersonnel ou jeu à la troisième personne, c'est-à-dire vu du dessus, où je vois les actions de mon personnage. Je sais pas pourquoi, l'OSR, c'est quelque chose que je me représente.
Ouais, en OSR, la perception est primordiale.
En FPS, quoi.
Ouais.
C'est marrant, ça.
La question des sens est primordiale, en fait, en OSR. Dans le sens où ce que tu vois, ce que tu ressens.
Ouais,
moi, dans Cimetière, il y a énormément de fois où je dis mais qu'est-ce que j'entends, quelle est l'atmosphère, est-ce que l'atmosphère est humide, et si je me tourne à droite et à gauche et pas en haut, justement, qu'est-ce que je vois. Donc là, on voit bien que les sens à la première personne sont au cœur de l'expérience.
Ouais, ouais.
C'est aussi une expérience sensorielle, en fait, l'OSR, surtout Cimetière, dans le sens où ben, tu as des indices laissés par l'intégralité de tes sens au sujet de ce qui se passe ici, les potentiels dangers, etc.
Très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter sur le jeu, Valentin, Adrien, Antoine ? Ou est-ce qu'on a...
Bah, moi, pour résumer, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu qui me satisfasse sur ce qu'il diffère. Parce que moi, en fait, le jeu que j'attendrai là-dessus, c'est une campagne complète avec des secrets cohérents, des PNJ, des machins, tout ça. D'accord. Et moi, arriver dedans et me le prendre en pleine figure. J'ai pas envie que ce soit créé à la volée pour moi, parce qu'en fait, ça n'a pas la même saveur. Pas la même richesse, pas le même...
Dans Dark Souls, t'as la sensation que tu découvres quelque chose qui était déjà là.
C'est ça, ouais. C'est
et donc, du coup, il y a quelque chose à découvrir, en un c'est sens, ça. Alors que là, tu as l'impression d'être un peu d'un vide ou de...
Un petit peu,
de découvrir uniquement ce que tu as mis dedans ou de ce que vous avez mis dedans.
Bah, c'est un peu la différence entre un spectacle d'impro et une pièce de théâtre. C'est que le spectacle d'impro est sympa, c'est divertissant, c'est rigolo, mais... Tu t'attaches pas la même profondeur au personnage que.
Mais du coup, j'ai une question parce que là, du coup, tu vois, il y a une préparation dans Cimetière où, quand tu as le bouquin, tu prépares le mythe, un certain nombre de domaines, des seigneurs, etc. Et ensuite, le personnage arrive et après, si tu vas ajuster un petit peu les donjons, tu vois, tu vas un petit peu gérer l'architecture pour que ce soit fluide en fait. Est-ce que c'est.
J'ai pas lu tout ça en fait, donc je sais pas à quoi ça ressemble en campagne, je sais pas à quel point cette symbolique. Est-ce qu'il y a une symbolique globale qui est pré-pensée?
Alors oui, ça s'appelle le mythe, ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord. Ok. Ah, peut-être alors, je sais pas.
Ouais, donc peut-être là, pas. Ouais.
Peut-être que là, ce qui manque comme expérience à nos deux jeunes joueurs baroniques, c'est l'expérience campagne que toi tu as, Valentin.
Et
qui...
Ouais, c'est possible, ouais.
Mais après, tu vois, le problème de ça, c'est est-ce que là. En l'état, Antoine et Adrien ont envie de faire une campagne du jeu, tu vois. Est-ce que ça les a...
Non, bien sûr, possiblement pas.
Hein. Et là, donc Antoine, bon, c'est peut-être son manque de conviction vis-à-vis de l'OSR qui le bloque d'entrée de jeu. Mais quand tu vois Adrien, tu vois, il est fan de Dark Souls, il faudrait quand même que KF réussisse à...
Ben, non, en fait, même pas justement, parce que peut-être que ce que KF veut faire de Dark Souls, c'est pas ce que moi je veux faire de Dark Souls.
Certainement, mais...
Donc, je demande pas non plus que KF il plie le jeu à mon désir, tu vois.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais il faudrait au moins qu'il puisse t'attirer dans ses filets.
Non, pas forcément. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Dans ce cas-là, ça pose la question de l'adaptation du jeu de rôle.
Par contre, KF entendra ma critique. Mon ressenti vis-à-vis du jeu, il pourra se positionner vis-à-vis de ça, à dire est-ce que c'est ce que moi j'aurais voulu faire ou pas, et si c'est pas ce qu'il voulait faire, ben peut-être que le jeu est bien comme
ça. Je pense que c'est aussi une question de bah ok, je pense que c'est assez proche en fait de ce que tu proposes, mais il y a un côté comment en fait bien faire ça, l'adapter effectivement, et surtout je crois que c'est une question de transmission.
Ouais. J'ai vraiment possible, le sentiment que c'est qu'il y a un problème de transmission le livre à toi, de c'est toi ça. À moi, que, et qu'il y a eu trop d'intermédiaires.
En fait, moi, je me base un petit peu sur ce que je perçois de la manière dont KF joue avec moi. Et tous les conseils sont c'est du playtest, donc tous les conseils sont pas du tout écrits.
Bien sûr.
Tout n'est pas totalement
mais,
fini.
Mais il n'empêche que vu comment il présente son jeu dans les premières pages du livre, les critiques que je te fais, c'est des vraies critiques du jeu, parce que le jeu accepte totalement le fait que le lecteur va adapter, va le faire à sa sauce. Donc là, l'auteur ne peut pas rejeter toute responsabilité là-dessus.
Tout à fait.
Non,
non, pas du tout.
Le flow design, c'est ce qu'on disait au départ. Et,
ouais.
Ça, faudrait qu'on en parle peut-être, voir comment est-ce que tu crées une sensation de flow, parce que toi, tu le dis.
Alors, le flow design, attention, c'est pas exactement la même chose. Le flow design, c'est le fait d'adapter à la volée.
Okay,
le jeu, pendant la campagne, de le transformer pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie de faire.
Oui, sauf que tu m'as dit tout à l'heure, pendant ton débrief de ta campagne, que tu avais une vraie sensation de flow pour le coup.
Oui, ce qui n'a rien à voir. Mais
Ok, très bien, ça n'a rien à voir. Ok, voilà. Bon, c'est bien à préciser, parce que moi, je pensais justement que c'était pensé pour obtenir ce genre de sensation.
Non,
façon dont tu l'avais décrit. Ok, très bien, donc là, entendu.
Mais ok, je pense que tout ça, je pense qu'il y a beaucoup une question de clarification de méthode de jeu.
Ouais.
Je pense que moi, je referai des playtests après avoir eu justement de la part de KF une grille un peu plus claire sur les principes de jeu en fait, comment jouer en pratique, qu'est-ce qu'il faut dire, comment construire le contrat social aussi. C'est des choses que nous on a fait avec KF, mais à l'échelle d'une campagne, donc on a eu le temps d'oublier en fait les règles mêmes qu'on s'était données, enfin d'oublier le fait qu'on les avait explicitées. Donc je pense que c'est des choses à reprendre pour...
Vous êtes vous-même des personnages de Dark Souls, vous avez oublié votre propre passé, vous êtes dans ces ruines-là...
Tu rigoles, mais on a fait une pause assez longue, de 2 mois je crois, sur la campagne, et moi j'avais oublié un certain nombre de choses, et en fait c'était très convaincant dans le sens où ok, mais je continue. Oui, c'est vrai qu'il y avait la quête pour le feu, il y a des trucs que j'ai oubliés, mais on continue quoi.
Excellent. J'étais en train d'imaginer que deux joueurs donc jouent à Cimetière et puis en fait ils reprennent, mettons, 10 ans plus tard et en fait il y a vraiment 10 ans qui se sont écoulés sur les ruines.
Ouais. Bah oui.
Comme dans Metal Gear Solid 3 où tu peux tuer un boss comme ça en juste en arrêtant de jouer pendant une certaine période et il meurt de vieillesse.
Ouais. Bah il y avait, je pense que tu vois des trucs que tu peux faire dans Cimetière, je trouve c'est assez poétique aussi. Tu peux dire par exemple, bah je reste assis ici pendant un siècle. Et puis, voilà.
Ça peut être la solution au problème, quoi.
Ça peut être une solution, ouais. Genre,
où j'attends l'hiver que la cascade soit gelée pour pouvoir l'escalader, quoi.
Je sais pas s'il y a trop des saisons dans le cimetière.
D'accord, mais tu admettons. Trucs, ouais.
Mais il y a un peu un temps breton. Il fait gris, c'est il pleuvine ouais. Et il fait froid ça... et c'est tout le temps.
Il est où le soleil? Il est quelle heure?
Tout ça pour bâcher le temps breton, quoi. C'est ça. C'était juste histoire de bâcher le temps breton avant que ce.
Mais en tout cas, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice du playtest. Ça fait. En fait, c'est très précieux parce que du coup, ça permet vraiment de.
D'avancer.
Ouais, d'avancer puis de calibrer. Calibrer la rédaction. Voilà.
Et bien, très bien. Merci Valentin, merci Adrien, merci Antoine.
You die.
Salut.
À très bientôt tout le monde.
Bye bye.